et Tom Gauthier.
Laisse-moi le temps d'arriver, Pascal.
Pourquoi tu dis ça?
J'arrive, elle me dit, là, faut se faire un bloc US actualité internationale. Poutine! Trump!
L'Ukraine!
L'Ukraine! Il se passe des affaires, il se passe des affaires. En Ukraine, ce qui est assez intéressant, si je me trompe pas, c'est qu'on a arrêté deux agents.
Oui.
Des agents secrets qui avaient pour mission d'abattre le président ou le premier ministre d'Ukraine. C'est-tu le président?
Volodymyr Zelensky, oui.
Oui, c'est le président. Donc, voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont arrêté. Les deux gars, ils ont été arrêtés.
Ouais, ouais.
Et ça, t'aimes-tu ça, les films d'espionnage? Là?
J'adore ça. Les films de guerre, les films d'espionnage.
Moi, j'aime ça, mais des fois, je trouve qu'on est très, très loin de la réalité. J'ai rencontré dans ma vie trois agents ou ex-agents du SRS, qui est le Service de renseignement canadien. Il y en a un que vous connaissez très bien, que vous avez vu à la télé, c'est Michel Junot-Katsuya. Puis il y en a deux autres qui n'ont jamais fait de médias. C'est des individus qui étaient à la recherche, puis c'était des. À retraite maintenant, et c'était des analystes. La même job que Michel Junot-Katsuya. Mm-hmm. Puis on a toujours l'impression que ces gars-là, c'était des agents secrets, mais c'était pas ça pantoute. C'était juste des gens qui allaient sur le terrain pour recueillir de l'information. C'était pas des gens qui se faisaient embaucher dans des endroits, exemple à la Maison-Blanche, là, où ils devaient absolument tout savoir, tous les secrets sur les Américains. C'était des gens qui étaient des analystes.
Ben, au Canada, c'est un peu moins... c'est un peu moins science-fiction film d'Hollywood, là, effectivement.
Ouais.
Mais si tu t'en vas du côté des États-Unis, si tu t'en vas du côté de la Chine, là, t'avais jamais entendu parler des espions chinois qui étaient en Amérique, là? Récemment, là.
Oui,
des histoires d'on échappe des clés USB. Des histoires où tu deviens un dieu grec du jour au lendemain dans un bar, mais c'est parce que tu travailles dans une entreprise avec des informations.
C'est, mais c'est quand même des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du cinéma. Tu sais, quand tu regardes Jason Statham, là, qui est sur son tracteur avec sa calotte, puis là, tout d'un coup, il est appelé en mission, puis là, ben, il enlève son T-shirt, il est plein de muscles, puis là, il s'en va dans un pays, il réussit à se battre contre 300 personnes, puis à la fin, il gagne.
Oui.
Michel Junot-Katsuya, ce qu'il m'avait expliqué, c'est que c'est pas ça pendant toute sa job.
Non, mais pas au Canada.
Il est en chemise, cravate, il travaille sur son ordinateur, il va rencontrer des gens,
dans
il essaie
murs.
De retirer de l'information de la part des gens qu'il va rencontrer.
Mais c'est la pas... GRC et l'armée, par contre, ont des filiales de ce type-là, vraiment particulières au Canada. Là. La GRC, là, j'ai le père de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie.
Le père de quelqu'un.
Oui, parce que je ne veux pas nommer la personne. Ou
As-tu un père, Tom?
Oui, moi, j'en ai un.
Qui partait...
Ça pourrait être votre père.
Qui partait, sans rien dire à sa famille. Il ne pouvait rien dire. Puis des fois, il arrivait avec un tout autre...
Tu sais, on a besoin d'un mari qui trompe sa femme.
Oui, c'est sûr, t'allais aller là, mais on n'est pas là-dedans. Il arrivait avec un tout autre physique. Il partait des fois, puis il ne pouvait pas dire où est-ce qu'il s'en allait, combien de temps. Il partait dans pleine nuit. Puis ça, il y a des agents de la GRC qui agissent en fonction. Puis il y a dans l'armée, il y a certaines strates de l'armée qui, eux, dans leur métier, sont payés pour ramasser de l'information. Puis parfois, ça va être juste quelqu'un que vous allez avoir dans des bars ou qui vont être déployés à l'extérieur dans d'autres pays. Puis ça va être de socialiser pour avoir des informations. Et là, ça s'en vient un petit peu plus dans le Hollywood de ce qu'on connaît.
Mais bref, j'avais tellement descendu de mon nuage quand j'avais reçu Michel Junot-Katsuya.
Toi, t'en voulais plus.
Ben, je voulais savoir, tu sais, c'était quoi la différence entre le SRS et la CIA. Puis il me l'a expliqué. Puis Chris, le SRS n'a rien à voir pantoute avec la CIA. Le SRS n'ont pas d'avion. La CIA, j'ai des chums, moi, qui sont retraités de l'armée canadienne, dont un, je dis des chums, c'était des connaissances de plongée sous-marine.
Mm-hmm.
Lui, il était chargé, quand il arrivait sur des bases militaires, de s'occuper de la tour de contrôle.
Okay.
Donc, c'est un contrôleur aérien. Puis, il m'expliquait qu'il y avait plusieurs paliers là, pour ce qui est des contrôleurs aériens. Mais il savait parfois qu'il y avait un avion qui passait, qui était non identifié, qui n'était pas un avion ennemi, mais il taguait constamment CIA parce que tout le monde était persuadé que c'était la CIA qui passait, mais il n'avait pas été informé. Tu sais, je veux dire, c'est l'armée canadienne, l'armée américaine, parce qu'ils travaillent tout le temps ensemble. Ils sont pas capables de savoir si cet avion-là... Ils savent que c'est pas un avion ennemi, mais ils ne savent pas si c'est vraiment la CIA. Donc, la CIA passe sans nécessairement avertir les gens pour dire on est en train de faire la surveillance là, même si c'est un pays qui est en guerre. Là. C'est fou, raide.
Il y a quelques livres vraiment intéressants sur la CIA. Entre autres, un que j'avais lu, ça s'appelle « Les armes secrètes de la CIA ». C'était genre torture, manipulation, puis armes chimiques. C'était Gordon Thomas qui avait mis sa plume pour nous expliquer un peu tout ce qui se passait. Puis on retourne dans les années de George W. Bush, entre autres. Puis on retourne dans toutes ces années de guerre froide. Mais c'est un autre monde. Mais honnêtement, si vous êtes passionné de ces choses-là, il y a plein de belles lectures à faire, là.
Bon, au moins, nous autres au Québec, on a de l'éco-sabotage. On peut-tu se vanter de ça?
Je pense pas. On a des tournants numériques qui fonctionnent pas.
Je pense pas. Tu sais, dans le coin où on veut bâtir Northvolt, il y a le président de l'entreprise qui est sorti, puis ils ont annoncé qu'il avait été victime d'éco-sabotage. Mais je pense qu'ils se trompent de mots, là. Mais en même temps, j'imagine qu'ils essaient de peser leurs mots quand ils parlent comme ça devant les médias. Mais les employés ont trouvé des engins qui s'apparentent à être des objets incendiaires, là, avec des mécanismes pour que...
Créer un feu.
Ben pour faire un feu, mais c'était en dessous de la machinerie que les employés utilisaient. Puis là, on parle d'éco-sabotage. T'sais, pour moi, un éco-sabotage, là, c'est quand tu vas arriver ou la machinerie, puis tu vas crever les pneus, tu vas sacrer ton camp. Mais quand tu utilises un matériel qui peut s'enflammer avec un dispositif pour enflammer ce dit matériel-là, puis après ça, faire exploser le camion...
Et donc blesser quelqu'un aussi,
c'est parce qu'il y a des employés là-dedans. Ouais. Moi, je parle d'éco-terrorisme, là. C'est pas de l'éco-sabotage. C'est juste qu'ils se trompent de mots, là. Puis de l'éco-terrorisme, ça existe. Ouais. Ça a toujours existé. Mais je comprends pas pourquoi on l'utilise pas. Ça aurait pu être très dommageable pour les employés. Il y a des éco-terroristes qui utilisent des tapis cloutés maintenant. Donc, si tu te promènes dans le bois... Tu as l'impression de marcher sur un tas de feuilles, mais c'est pas un tas de feuilles. Ben, en fait, c'est un tas de feuilles, mais en dessous, il y a des piquants, des piquettes, comme des clous inversés qui peuvent te rentrer dans les pieds.
Mais là, c'est-tu si populaire que ça? On dirait que c'est la première fois que j'entends qu'il y a du monde qui font ça. Là. C'est ordinaire.
Ben, je veux dire, tu sais, dans l'histoire, je peux. Tu sais, la gang à Nelson Mandela, quand il luttait contre l'apartheid, là, vous allez dire, c'est une crise de bonne affaire qui ait fait ça. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Mais c'était du terrorisme qui était. Dans notre tête à nous,
positif.
Puis ça tuait. Au départ, avant que Nelson Mandela rentre en prison pour 27 ans, au départ, il n'y avait personne qui avait été blessé par ce terrorisme-là. Parce qu'eux, ce qu'ils voulaient, en fait, c'est l'égalité blanc et noir. Puis à partir du moment où lui est rentré en dedans pendant 27 ans, ben là, le groupe dans lequel Nelson Mandela était, ils ont commencé à faire des trucs. Puis malheureusement, il y a eu perte de vie. Mais ce type de choses-là qui se passe chez nous, quand on parle d'éco-sabotage, les amis, vous n'utilisez pas le bon mot, là. C'est de l'éco-terrorisme. Puis l'objectif, c'est de faire mal, de faire assez peur pour que les gens arrêtent de travailler pour bâtir Northvolt. Mm-hmm. Moi, si vous me demandez est-ce que Northvolt, c'est positif ou pas, à mes yeux, à moi, ça aurait été positif s'il n'aurait pas utilisé une scène de mon argent. Mais pour la plupart, du moins quand on jase avec les politiciens, il faut les croire une fois de temps en temps, ça semble être positif pour le Québec. Mais c'est carrément de l'éco-terrorisme, là.
Ah, carrément. Puis en plus, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois que ça arrive sur ce terrain-là. Là, tu parlais des bords cloutés, on en avait mis au mois de février. Il y a eu ça. Il y a aussi un bureau de centre de valorisation qui a un contrat avec Northvolt qui s'est fait asperger de peinture. T'sais, c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça dans ce dossier de l'usine Northvolt, mais encore, on en ajoute une couche avec ces objets-là qui ont été retrouvés.
Le terrorisme, c'est impardonnable.
Oui.
Puis l'éco-terrorisme, c'est aussi pardonnable, surtout quand il y a perte de vie humaine.
C'est aussi impardonnable, oui. Parce que je veux pas que quelqu'un pense que tu as dit pardonnable.
Oui, voilà. Ben, les deux sont impardonnables, que ce soit d'un bord ou de l'autre. T'sais. Quand il y a perte de vie ou on veut blesser des gens, attendez un peu, là, les employeurs, c'est Northvolt, mais les employés qui bâtissent, c'est des entreprises de construction qui n'ont rien à voir avec vos idées.
Puis sais-tu, je trouve ça, on ne sait pas s'ils voulaient carrément faire mal à des gens, mais le fait de prendre le risque de poser une semi-bombe, là, c'est comme une bombe finalement, ce qui est en dessous de la machinerie, puis de ne pas savoir si elle peut exploser, tu peux te tromper, il y a quelqu'un à l'intérieur, il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur. Tu as raison, Yannick, sur le fait que ce n'est pas juste de crever des pneus puis que la machine, tu ne peux pas la faire rouler. Là. Il y a un risque qui est associé puis à blesser des gens, puis c'est là où ça dépend. Les bornes. Je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de caméras, on n'a pas plus de surveillance, on n'a pas plus...
Ça a l'air qu'ils ont des trucs de surveillance, mais que les éco-terroristes ont réussi à déjouer. Puis je regardais les gens à Radio-Canada parler de ça, puis c'est comme si c'était pas si grave que ça, là. Des gens qui essayaient d'empêcher le chantier d'avancer. C'est un peu, là, des objets incendiaires avec des détonateurs pour partir ça, ce feu-là. Il y a des employés, là. Je comprends qu'à Radio-Canada, il y a des gens un peu bizarroïdes, là. Mais, tu sais, à un moment donné, lâchez les pellules, là. Restez à jeun un peu, là, puis réfléchissez, là. D'un bord comme de l'autre, s'il y a perte de vie humaine ou s'il y a des gens qui sont blessés, ça n'a pas de maudit bon sens, peu importe la cause que tu défends, là. Mais eux autres sont là-dessus. Donc, c'est juste une question de vocabulaire, là. Éco-sabotage chez Northvolt, je trouve que c'est assez particulier comme terme. C'est plus de l'éco-terrorisme. Puis j'espère juste qu'il n'y aura pas de blessés C'est des gars de la construction. C'est pas le PDG là, qui va embarquer dans le camion pour essayer de bâtir son usine. C'est des gars dans des entreprises privées qui travaillent sur la construction, qui risquent leur vie. Puis tu sais quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Ils vont dire, ben nous autres, ça nous prend une prime de risque. Là,
ça nous tente plus d'y aller aussi. Là.
Ça nous tente plus d'y aller.
Ça te stresse au fond.
Oui, tu sais, des jeunes qui ont rentré dans un genre de shack là, où, chez Nordvolt, où ils ont pris de la peinture puis ils ont mis ça dans des fusées à l'eau. Puis là, ils ont tiré de la peinture. Regarde, c'est du vandalisme, mais ça n'a rien à voir avec de l'éco-terrorisme. Là. Ça peut être considéré comme de l'éco-sabotage.
Là, c'est ça. J'ai appris des propensions qu'il faut intervenir en tant que policier. Là.
Exactement, madame. Penses-tu à aller à Toronto bientôt parce que j'ai un bon deal pour toi?
Hey, c'est tellement hot, ça.
Tom me parlait de ça tantôt. Ouais. Je l'avais lu ce matin quand je me suis levé. Ça peut être cool s'il y a des Airbnb pas trop chers dans le secteur de Toronto. 100$ Québec-Toronto cet été, ça vaut vraiment
pour
la peine.
Le train,
puis même moins que ça. C'est hot.
Non, non, c'est pas le train.
C'est en avion.
C'est en avion.
En avion?
Moins de 100$ si tu pars à Toronto de Québec, Pascal.
T'as un but.
Tu sais, je te dis pas qu'ils vont servir. Je te dis pas qu'ils vont servir le champagne dans l'avion.
Ben là.
Mais 100$, ça se fait bien, là.
Bien, pour un aller simple commence aussi bas que 52$. Ça leur tente pas pour cette île aussi, pas juste Toronto?
Ouais, cette île, ça, c'est quoi?
52$.
Cette île, c'est un voyage à Cancun.
C'est 800$, ouais. Sauf depuis que le gouvernement décide de faire des billets 250 aller, 250 retours quand tu en achètes d'une manière X. Là.
Ouais. Mais c'est Flair Airlines qui fait son entrée à Québec. Dès aujourd'hui, on offre des vols bon marché entre l'aéroport international Jean-Lesage et l'aéroport international Pearson de Toronto. Si vous êtes capable d'avoir un petit Airbnb 2-3 jours, ça se fait bien.
Le hic étant, est-ce que c'est le genre de compagnie où tu peux manquer ton vol 150 fois quand tu n'es pas sûr de partir, qui vont perdre tes bagages, qui vont... J'en cherchais une compagnie.
J'ai une solution pour toi. Il n'y en a pas de bagages. C'est juste ton petit bagage à main que tu vas
conserver. Un bagage à main, c'est correct, tu pars pour un week-end.
C'est ça.
Ben, c'est ça.
Mais c'est quoi la compagnie? L'avion est jaune, là. C'est la pire compagnie. C'est beaucoup aux États-Unis. Puis je viens de taper « pire compagnie aérienne États-Unis ». Je ne trouve pas. Il y a des gens qui vont le trouver facilement. Il y a eu des reportages là-dessus.
C'est Spirit?
Oui, c'est Spirit. C'est épouvantable, ça. Ils perdent les bagages. Ils les ont pas pendant 2 semaines.
Ça m'est arrivé une ou deux fois. Ouais. Ça m'est arrivé une ou deux fois. C'était carrément à Cancun ou bien à Playa del Carmen, là. Puis les deux fois, j'étais seul. Puis les deux fois, j'allais me laver dans la piscine le soir.
Parce que t'avais...
Avec mon linge.
Ben oui, avec ton linge dans la piscine.
Je me sacrais dans
la piscine. T'avais l'air gorlot, pas
j'avais mon T-shirt, j'avais mon T-shirt, j'avais mon costume de bain.
Ouais.
Je me sacrais dans la piscine, j'arrivais à la chambre, j'étendais mes affaires. Puis le lendemain, je repassais la journée avec le même linge jusqu'à temps que j'avais mes bagages.
Dans
ça a pris 3 jours.
Écoute, tu peux t'en sortir, ouais. Là. Mais moi, perdre mes bagages, si je suis en voyage, je vais pas paniquer. Je vais aller m'acheter d'autres choses, par exemple. Inquiète-toi pas que je reviens avec une valise avec du linge pour...
C'est quoi?
Quoi?
Bonne chance.
Pourquoi?
Une bouteille de shampoing dans le sud, ça coûte un rein. De la crème solaire, là, ce que tu peux acheter chez Sujan Coutu,
oui.
C'est 10$, mettons. Ben là-bas, c'est 30 à 50$.
Ouais. Ben, c'est pas mal, c'est ma crème solaire.
Bonne chance pour ton petit maquillage.
Oui, ben, écoute, dans un tout inclus, comme j'ai dit, c'est pas la même chose, mais si je m'en vais faire un tour de l'Europe, là, puis j'ai pas mes affaires, ça, je te jure, j'en achète. Je vais pas porter le même kit chaque jour. Ben, si je suis obligé, je vais le faire.
Ce qui est capoté, c'est les gens qui ont des AirTags, là.
Oui.
Tu sais, les AirTags directement dans leur valise, puis ils appellent les compagnies aériennes pour dire, ben là, moi, là, je suis à Cancun, puis ma valise est rendue à Vancouver. Puis là, la personne dit, ben là, comment vous pouvez savoir que votre valise est à Vancouver? Ben, madame, j'ai un AirTag. Je peux même vous dire être à peu près à quel endroit à l'aéroport à Vancouver.
Il y en a beaucoup qui ont ça.
Ils disent, parce que j'ose régulièrement avec des agents de voyage qui règlent ce genre d'affaires-là, là, l'employé qui est au téléphone, on dirait qu'au départ, il met toujours en doute la parole du client qui appelle. Mais avez-vous déjà vu un client appeler pour rien pour dire qu'il a perdu ses valises? C'est jamais arrivé, là. C'est arrivé à l'aéroport de Québec. Une valise qui est restée là pendant 4 jours. La fille a dit, non, tu comprends pas, là. Moi, je suis à Québec. Ma valise est à l'aéroport à Québec. C'est sur le tarmac. Je peux même te dire à peu près à quel endroit. Puis... Je veux avoir ma valise. Puis l'employé était là. Oui, mais madame, quand bien même que votre valise est là, on peut pas la retrouver facilement. C'est-tu si compliqué que ça? Tu peux même voir la valise en mouvement, sacrifice.
C'est une bonne question.
Puis l'employé te remet en doute, là.
Moi, ça m'est arrivé de la perdre en revenant de l'Italie, puis j'ai tout perdu ce que j'ai rapporté. t'étant déclaré, puis tout le
frais. Ah ouais, tout.
Ouais, ça, c'est décevant. Tu dis, yes, on va faire un gros souper avec tout le monde que, dans, autour de moi qui n'ont pas pu voyager en Italie, puis t'es content, tu rapportes des trucs. C'est tout pourri à travers tes chandails.
Correct. OK, t'avais rapporté de la bouffe.
Oui, mais j'avais
pas le droit de faire
ça. Ben oui, il y a des choses que tu peux rapporter, des pâtes, des trucs de même. Il y a des trucs que tu déclares, là. C'est comme si tu t'en vas, je sais pas, moi, faire de la pêche aux États-Unis ou autre. Il y a une manière de déclarer pour rapporter ton poisson, des trucs comme ça. Fait que oui, il y a des trucs que tu peux rapporter. Okay. C'est juste qu'il faut que tu sois capable de le conserver. Sauf que si ta valise se perd pendant quelques jours, oublie ça.
Marie-Pierre qui nous écrit par texto. Salut, j'ai pris cette compagnie-là quand elle est arrivée à Montréal et j'ai été à Vancouver. Le seul X qu'on avait, c'était au retour, faire le check-in en ligne. Ça disait que mon vol existait pas.
Ah, c'est pas stressant, ça.
Oh, wow. J'ai appelé Flair, et ça a été réglé.
C'est le Flair, la compagnie Flair là, dont on parle.
Ou Spirit, je sais pas
non,
si...
Non, mais... Ah, oh, ouais, parce qu'on a
parlé de Spirit. Ouais, c'est ça, ça doit être Spirit, d'après moi, mais je sais pas.
Mettons, on taux pour 100$ aller-retour, ça coûte bien moins cher que de le gaz d'essence.
En avion, tu sais, ceux qui veulent faire un petit trip de 2-3 jours, escapade en amoureux-amoureux.
Mais hein.
J'allais dire, on le fait-tu jusqu'à temps que tu dises escapade entre amoureux-amoureuse? On va passer.
Merci. En musique, Imagine Dragons sur les ondes de Boulevard. Vous avez des choses à nous dire, toujours le même chemin. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. On vous souhaite à tous un excellent mardi. C'est plein soleil aujourd'hui. Profitez-en. You hold the line. 14 degrés sur Québec, c'est ce qu'on a présentement, généralement ensoleillé tout au long de la journée, maximum de 19. Demain, mercredi, un ciel dégagé en matinée. Il y aura peut-être de la pluie en après-midi, c'est ce qu'on nous mentionne pour demain, maximum de 9 degrés. Jeudi, de la pluie intermittente, maximum de 12. Vendredi, samedi, ce sera plein soleil, maximum de 15 pour samedi. Maximum de 15 pour vendredi. Et un 17 pour samedi, c'est ce qui est annoncé. Et pour l'instant, il n'y a pas de pluie d'annoncer en journée pour dimanche. Une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 15 degrés. 418-971-1021, 418-971-1021. Si vous avez une trottinette à vendre, Pascal CV, et peut-être...
Et preneuse.
L'acheteur qui vous prend. J'ai croisé notre comptable national, celui qui est responsable de nos payes. Ça mérite le respect. Et il était avec sa trottinette tantôt.
Hein?
Il travaille à... Il reste à 5 km de la station, puis ça y prend à peu près une dizaine de minutes pour venir travailler ici. Puis sa trottinette roule à peu près à 30
km/h. C'est 30 km/h?
Oui.
C'est-tu beaucoup en trottinette? Parce que ça me paraît peu.
Je pense que
je veux
beaucoup
l'essayer.
Mais 30 km/h, c'est pas tant, là.
Mais je suis à 4 km de la station.
Ouais, ça dépend tout le temps où tu roules. T'sais, si tu es sur la piste cyclable, il n'y a pas un chat. 30 km/h, ça va pas vite. Si tu es dans le trafic, au travers des voitures, 30 km/h.
T'as l'air d'une petite tortue.
Ben, c'est parce que tu vas plus vite qu'eux autres. Tu es dans le trafic.
Ah, dans le trafic.
Tu peux te mouvoir un peu partout, mais 30 km/h, tu rouleras pas. Ah,
puis je vais pas rouler avec les automobilistes. Là. Ça, je trouve ça un peu nono. Je n'ai pas envie de faire suer du monde. Là. Passer entre les voitures, ça sera pas moi.
Tu es sur le trottoir, tu essaies de traverser, tout ça. Mais 30 km/h, c'est agréable. J'avais rencontré un ancien prof de maths de l'université qui avait débarré sa trottinette. Le monsieur était autour de 75 ans. Il avait un casque. Puis, c'est ça, 70 km/h dans le stationnement.
70! Oui, il voulait des émotions fortes encore à 75 ans.
Mais moi, c'est le genre d'individu très coloré que j'adore.
Oui.
Des gens qui sortent du lot puis qui se disent « c'est pas vrai que je vais être comme tout le monde, je vais être un peu différent ». Lui, c'était carrément ça, il était drôle. Puis on leur avait parti un club parce qu'il y avait comme un club de trottinettes.
Ben voyons.
Puis on les appelait les Hellzheimers.
Ah, c'est drôle.
Ils trouvaient ça très drôle. Mais je me disais, si jamais il y en a un qui prend une débarque à 75 ans...
Ça peut être absolument tragique.
C'est terminé, là.
Tragique.
Les risques sont là quand même.
Là, tu vieillis beaucoup plus vite.
C'est fini. Mais je veux vieillir de même, pas les hanches cassées. Là.
Moi, je vais être comme les détestables.
Ouais, c'est ça.
Plus tard, je vais être comme la femme des détestables.
Donner des coups de canne.
Ben là, ça, c'était pas mon premier point, mais attends, pour compter idée. Mais si les détestables existent à nouveau, là, quand on va être vieux, je soumets notre candidature.
Ouais. Quand j'ai un peu de temps, Pascal, des fois, je vais sur TikTok ou encore je regarde les Reels sur Facebook. Puis il y a un gars qui achale le monde sur le trottoir, mais c'est pas méchant, c'est juste drôle.
Okay. Okay?
Mais il y a des gens qui prennent ça très cool. Puis il y a des gens qui sont très excédés quand ils se font achaler sur le trottoir.
C'est-tu le jeune homme anglophone, puis des fois, il va aller achaler des personnes âgées?
Non, je pense que c'est...
Parce que celui-là, tu l'aimerais aussi.
Je pense que c'est un arabe. Il doit avoir à peu près 18-19 ans. Il est à Montréal. Puis il y a des gens qui passent à côté de lui, puis il dit tout le temps, « C'est toi qui as volé mon chocolat? » Puis là, les gens, « Pardon? » donne-moi mon chocolat. Je sais que c'est toi qui as mon chocolat. C'est rien de méchant, mais tu vois qu'il y a des individus dans la vie qui sont très cool en disant hey man, j'allais pas ton chocolat, mais c'est drôle, tu sais. Puis tu vois qu'il y en a qui pognent les nerfs.
Bien, pour vrai, avec le contexte actuel, là. Hein? Avec les nouvelles qu'on entend, là, ça se peut que tu pognes deux minutes si la personne n'arrête pas de t'harceler en disant que tu as volé son chocolat. Comme, elle va-tu se fâcher contre moi puis me sortir quelque chose?
Puis il y en a qui ouvrent leur sac.
Mais d'un coup, qu'ils
l'ont. Genre, il n'ouvre pas ton chocolat.
Moi, j'étais avec mon sac à dos. J'étais à Montréal. Là. Okay, mon sac à dos est dans le dos. Puis là, je marche. Puis un gars qui dit « Je sais que c'est toi qui as volé mon chocolat. » Moi, j'éclate de rire, là, puis jamais j'ouvrirai mon sac. Mais il y en a qui vont jusqu'à mettre leur sac à terre, ouvrir leur sac, puis dire « Regarde, je l'ai pas volé, ton chocolat. »
Si c'était un voleur, le gars qui accuse du chocolat, il en aurait une même mise sur le portefeuille.
Hein? Puis le gars, il est pas agressif, là. « Ah, dis-moi que c'est toi qui as volé mon chocolat. »
OK, il est comme triste dans son...
Triste! Puis là, des fois, il prend le ton de la personne. Fait que là, si la personne est comme... Hey, je l'ai pas ton chocolat! Oui, oui, je le sais que c'est toi que mon chocolat.
Mais il va falloir que tu nous retrouves une vidéo.
Mon chocolat?
On va falloir l'entendre à la radio.
Mais c'est tellement drôle des fois. Je sais pas vous autres, là, mais moi, des fois, j'utilise mon temps à bon escient. Fait que quand je suis aux toilettes, je relaxe puis je regarde ce type de petites vidéos.
Moins de détails la prochaine fois, mais plus de son du gars.
Tu l'as-tu, mon chocolat? Je le sais que c'est toi qui as mon
chocolat. Un peu pervers, hein, de dire qu'il demande d'autres choses.
Ça dépend sur le ton.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais là, tu l'as-tu, mon chocolat? C'est un peu
weird. Là, c'est bizarre.
Ouais. Mais on pourrait l'essayer avec toi, Pascal.
Quoi?
On te met dans le hall avec une caméra cachée en bas de la station. Puis quand il y a des gens qui rentrent, tu regardes dans les yeux, puis je le sais que c'est toi qui as volé mon chocolat.
Je vais me faire interner. La police va arriver. 10 minutes plus tard, ils vont reprendre tout ce que je dis à la radio depuis un bout. Ouais. Ils vont en faire une compilation et dire « Voici nos preuves pour que cette jeune femme soit soignée. » Donc, ajoute pas le hall d'entrée.
Arrêtons de niaiser.
Mais sinon, je pourrais le faire dans l'ascenseur, dans un espace clos.
Oui, t'es comme...
Où les gens ne peuvent s'échapper.
Oui, non, mais t'es comme habillé, là, comme en 1950, là.
Que
t'es dans l'ascenseur puis tu demandes aux gens « Quel étage? »
Oh mon Dieu, mais c'est perturbant.
Puis tu fais semblant que tu travailles là puis tu t'offres des verres. Voulez-vous un verre?
Un verre de quoi?
Un petit verre de vin. Là, ça n'a pas rapport.
Si c'est trop caricatural, les gens vont pas
rire. Un verre de vin?
Ah oui.
Faudrait
que ça soit pas trop, trop caricatural pour que les gens embarquent de façon un peu apeurée.
Mais ça serait fou. Moi, j'aime ce genre d'idée-là, là, qui n'ont pas de crise de bon
sens. On a-tu des maquilleurs professionnels qui pourraient changer mon visage puis qu'on pourrait faire une couple d'expérience dans la ville de Québec?
Ouais, je pense pas que ce soit ton visage qui fasse en sorte que ça change quelque chose à l'histoire. Hey, ça me rappelle au palace. Ouais, t'as-tu déjà été au palace?
Quelqu'un qui me croise sous une autre personnalité puis qui me recroise un moment en disant c'est elle la folle que j'ai croisée au coin de la rue la dernière fois.
T'as quel âge, toi, tu fais?
30.
T'as-tu déjà été au palace?
Non, j'ai jamais été au palace.
Moi, j'ai été deux ou trois fois au palace qui était juste ici, là, coin Pierre-Bertrand. Puis, sais-tu Souman?
J'ai jamais été au palace, j'étais trop jeune.
En tout cas, bref, tu rentrais dans les toilettes, puis il y avait un gars qui était là, chemise, cravate, mon homme.
OK.
Puis, il pouvait te mettre du parfum.
Hein?
Oui, comme dans l'ancien temps.
T'avais trop dansé, puis tu puais un peu.
Non, il était là, tu pouvais mettre n'importe quel parfum, tu pouvais le tipper. Quand t'allais aux toilettes, ben là, t'allais te laver les mains. Après ça, il te présentait la serviette pour t'essuyer les mains.
Mais ça existe encore dans des endroits un peu huppés. Là.
Je sais pas, mais au palace, moi, ça m'avait...
Mais au palace, tu sais.
Ouais,
mais c'était des gens chauds, là, où tu te sentais obligé de... Parce qu'au palace, c'était pas la place la plus classe, là. Ouais. C'était
pas ce que je me disais, c'est que... En mettant ce gars-là là, avec le prétexte de « on te met du parfum pour que tu sentes bon » ou « on te donne la serviette pour que tu puisses t'essuyer les mains »,
il n'y a rien qui se passe dans les toilettes.
Il n'y a rien qui se passe dans les toilettes.
Ouais, ça, c'est bon.
C'est l'impression j'avais.
C'est très bon.
Mais en même temps, quand tu allais dans ce bar-là, ça sentait à guédaille en sacrement.
Parce que c'est quoi
Parce que les
axe?
Gars allaient aux toilettes.
Ouais, tu peux refuser, là, sinon c'est une agression. Te faire splouter du axe dessus là, sans ton consentement, moi, ça vaudrait une plainte, là.
Une plainte à police.
Ah, oh, une plainte à police.
Wow. On comprend maintenant pourquoi elle veut plus de maquillage en face. OK. Dans l'actualité, on jase de quoi?
Dans les derniers jours, les dernières semaines, je commence souvent mes bulletins de nouvelles avec un incendie, puis c'est encore le cas. Aujourd'hui, un incendie suspect s'est déclaré ce matin dans le secteur du Petit Champlain, à Québec. Le service de protection contre l'incendie de Québec qui a été appelé à intervenir en lien avec un feu qui a pris naissance derrière le théâtre Petit Champlain aux alentours de 6h45. Il y a pas moins de 35 pompiers qui se sont rendus sur place dès le départ pour combattre l'incendie parce que son emplacement, c'était dans le petit quartier. Puis ce petit quartier-là est assez restreint. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de place pour bien, bien se déplacer. Seule la paroi extérieure a été endommagée, puis la situation a rapidement été maîtrisée environ une heure plus tard. Puis selon Alexandre Lajoie, qui est porte-parole du service d'incendie, bien, il dit que les premières observations ont permis de constater que le feu aurait débuté dans une poubelle derrière le bâtiment. Comme il y a des traces d'intervention humaine volontaire, le dossier a été transféré à la police. Le service de police de la ville de Québec a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette situation-là. Nouvelle qui est tombée hier, mais finalement, le maire Machand qui va de l'avant avec une nouvelle taxe sur l'immatriculation dès le 1er janvier 2025. Le montant, pour l'instant, a été fixé à 10 $, mais pourrait être révisé d'ici le mois de septembre, donc le 15 septembre prochain. Cette nouvelle taxe-là de 10 $ s'ajoute aux 30 que paient tous les automobilistes québécois depuis 1992 pour financer le transport en commun. Cette demande est accompagnée d'un montant provisoire afin de permettre à la ville de respecter le délai en vigueur. C'est ce qu'on a écrit par communiqué hier. Le maire Bruno Marchand, on se rappelle, dans les dernières semaines, avait répété à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas imposer cette nouvelle taxe-là sans être en mesure de dire comment ces nouveaux revenus-là pour la ville allaient permettre d'améliorer.
Un politicien qui nous ment, ça me surprend. Hein?
Le transport en commun. Il souhaitait, on se rappelle, repousser l'échéancier au 31 mai pour donner finalement s'il allait aller de l'avant avec cette nouvelle taxe-là. Mais la SAC, avait indiqué qu'aucun report n'était possible. Mais finalement, il va y avoir une deuxième date butoir, comme je disais, le 15 septembre prochain pour ajuster le montant. Il remercie Mme Guilbeault d'avoir été assez malléable dans tout
merci,
ça.
Merci,
Mme Guilbeault. Puis on se rappelle que les maires de Lévis, Ancienne Lorette et Saint-Augustin ont tous fermé la porte en lien avec une nouvelle taxe.
Je salue toutes les maires qui ferment la porte en lien avec une nouvelle taxe. Le problème à Québec, c'est que c'est un déficit de 30 millions, Pascal, et on dit que c'était dans le temps pour éponger le déficit conjoncturel. T'as un déficit structurel qui peut y avoir si tes opérations coûtent plus cher que ce que te rapporte ta clientèle. Ben, c'est un déficit structurel. Mais là, conjoncturel, c'est dans le cas d'une conjoncture comme la pandémie. Là, 2 ans, c'était pas prévu.
Baisse d'achalandage.
Donc là, on peut demander, effectivement, à mes yeux, à moi, on peut demander, effectivement, au palier supérieur de dire, pouvez-vous casquer un peu? Parce que là, nous, on a de la difficulté. Ouais. Le problème étant, à Québec, on est rendu à peu près à 95 % de l'achalandage qu'on avait avant la pandémie. Ça veut dire qu'il y a le déficit structurel et le déficit conjoncturel. Mais là, le conjoncturel, il n'y en a plus. Il reste seulement 5 %. Là, le RTC actuellement est en audit de performance. Fait qu'on veut savoir qu'est-ce que ces gens-là font avec notre argent et sont-ils performants? On n'a pas la réponse encore.
Non.
Et là, tu as Guilbeault qui est en haut qui dit « Ben moi, je vais donner 200 millions à gauche, 200 millions à droite pour essayer de casquer, mais à un moment donné, je vais avoir les audits de performance. » Puis tu as le maire qui a obtenu la permission de la part de la Coalition Avenir Québec, faut pas l'oublier, de pouvoir demander à la Société d'assurance automobile du Québec d'ajouter un 10 $. Société d'assurance automobile du Québec s'est rendue un percepteur d'impôts, soit dit en passant. Là. Donc, on a demandé un 10 $ supplémentaire qui est temporaire, hein, parce que ce sera probablement un montant plus élevé que ça. Donc, on a des politiciens extrêmement incompétents. Je suis d'accord avec le gars qui va probablement être le prochain premier ministre du Canada. On a des politiciens qui sont extrêmement incompétents qui disent, écoute, peu importe la façon dont on gère nos entreprises, comme le RTC, vous devez nous donner de plus en plus d'argent. Mais pendant ce temps-là, on ne se pose pas les questions pourquoi on achète des autobus à 1,8 million de dollars.
En fait, on prend aussi, on commence à s'accoter sur l'aide gouvernementale au lieu de se remettre en question puis de retravailler les
contextes
financiers.
Alors qu'avant la pandémie, Pascal, c'était interdit de faire des déficits. Organisez-vous avec l'argent qu'on vous donne.
Il y en avait déjà. Est-ce que ma mémoire fait défaut au point où, de mémoire, avant la pandémie, c'était déjà difficile?
Il arrivait pratiquement juste parce qu'il y avait une interdiction de faire des déficits.
C'était Rémi Normand qui était là à l'époque.
Nous, on l'appelait Rémi Dormant. Mais oui, c'était Rémi Normand qui se promenait en voiture alors que puis il venait aux entrevues en voiture.
Il n'aimait pas répondre aux questions, ça, je me souviens sur le terrain.
Alors qu'il disait à tout le monde d'embarquer dans les autobus. Puis malgré les dizaines de millions supplémentaires qu'on a mis au fil du temps, les dizaines et les dizaines et les dizaines et les dizaines de millions supplémentaires, l'achalandage n'a pas augmenté. Fait qu'à un moment donné, il va falloir trouver un juste équilibre. Je suis pour le transport en commun, mais là, à un moment donné, on veut appauvrir la classe moyenne qui ont des enfants, qui ont plusieurs déplacements à faire par jour, puis les fins de semaine aussi. Puis on leur dit, bien, vous allez encore casquer pour le manque de gestion à l'interne que nous, on a. L'audit de performance n'est pas terminé, Puis t'as Bruno Marchand avec le beau grand sourire qui dit « Ben oui, ça va être un 10$. » Puis dans les prochains mois, on va augmenter. Donc, je salue les autres maires. Je salue le maire de l'Ancienne Lorette. Je salue le maire de Saint-Augustin. Je salue le maire de Lévis de ne pas pouvoir, de pas augmenter cette taxe-là parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Gérez-vous. Puis à partir du moment où on voit que vous gérez, bon, on vous donnera une indexation de 3 ou 4 % par année.
Moi, j'aurais demandé, je pense, à avoir tout l'exercice financier pour la prochaine année le plus serré possible avant de donner ce montant-là.
Un article de Radio-Canada disait que le RTC avait plus de chefs que d'Indiens par rapport au reste de la province. C'était pratiquement 25 % du payroll.
Mais ça, c'est ridicule. Honnêtement, ça, c'est vraiment ridicule. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait ventiler ces choix administratifs.
On a à peu près la même affaire qu'à Toronto. Cela dit, c'est pas plus grave que ça. On va jaser avec Claude Villeneuve, tantôt chef de l'opposition à la Ville de Québec et du Parti de Québec d'abord. J'ai bien hâte de voir sa position.
Le maire de Québec voulait pas répondre à ces questions-là?
Ah, il y a des hasards comme ça de la vie, Pascal, qui arrivent. Sinon, les Bruins de Boston,
mais on
ils
lui a
ont
demandé,
tu lâché?
Hein, je pense.
C'était assez fou hier. Je m'attendais pas à ça. Victoire des Bruins 5 à 1 hier face aux Panthers de la Floride. Encore une performance magistrale du gardien des Bruins, Jeremy Swayman. 38 arrêts sur 39 tirs. Sérieusement, si Boston va jusqu'à la fin, devrait gagner le trophée Conn Smythe du meilleur joueur en série. Donc, 1 à 0 dans cette série pour Boston. Puis ce soir, deuxième match entre la Caroline et les Rangers de New York. Les Rangers qui mènent la série 1 à 0, c'est à 19h. Et 21h30, Colorado contre Dallas, match numéro 1. Puis je termine avec la loterie, 18h30 ce soir. On va savoir qui va repêcher premier. Va aller chercher Macklin Celebrini. C'est les Sharks de San Jose qui ont le meilleur pourcentage de l'obtenir, 18,5%.
Le Canadien a combien de chances?
8,5.
À la grâce de Dieu.
Et voilà.
Souhaitons-le.
On croise nos doigts.
Hein? On va pas à l'église, mais quand ça peut faire notre affaire, on dit qu'on y croit, OK? On est de ton bord, man. 11h37, on fait une courte pause, on vient.
Marceau le midi. Gravel. Dans le retour.
Je sais pas toi, moi j'ai rêvé au Corneille. J'étais pleine, j'avais bu du vin, la vie était belle.
Quoi rêver au Corneille?
Ça veut dire que tu dors pas particulièrement bien. Vous avez jamais entendu ça, maman me dire que
bailler au Corneille, ça existe.
Rêve au Corneille.
Ça existe pas.
C'est une invention familiale.
Ce n'est pas une invention, donc j'ai rêvé au Corneille, OK? J'ai pas bien dormi.
On baille au Corneille, Hélène a raison. L'expression qui existe, Audrey, et c'est malheureux. Je suis vraiment peinée pour toi et ta mère, mais clairement...
Je suis pas peinée, je viens de vous ouvrir les yeux.
Non, clairement, c'est un...
Excuse-moi, c'est révolutionnaire ce qu'on
C'est un cas de fabulation.
Non, pas du tout. Là. Utilisez ça, vous allez voir, ça sonne bien.
Je suis sur le bord d'écrire le petit livre des affaires qui n'existaient pas avant Audrey.
Mais je vais faire le petit pain chaud. Il y a le petit Robert.
Hey, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Mike Gauthier pour l'émission Midi Plus. J'ai une entrevue exclusive avec cette dame lumineuse qui a été éliminée en quart de tiers de finale de Star Academy et qui lance aujourd'hui son album Rêver aux Corneilles. Audrey Pinchot, bonjour.
Gravel dans le retour. 102.1 en semaine, 14h.
Du 6 au 12 mai, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Que ferez-vous pour améliorer votre santé psychologique? Boulevard 102.1 et la Fondation Cerveau vous invitent à participer aux différentes initiatives concrètes afin de sensibiliser et humaniser les enjeux sur la santé mentale. Visitez fondationcerveau.com pour apprendre comment vous aider et nous aider en faisant un don. Boulevard 102.1 et la Fondation...
11h41, Audrey Pinchot devrait se joindre à nous dans les prochaines minutes. D'ici là, il y a un avion qui vole à basse altitude, à ce qu'on me dit, dans la grande région de Québec. Elle serait actuellement dans le coin de Québec. Donc, de la ville de Québec. Était sur la rive sud de tantôt. Plein de gens qui se posent des questions. Je vous le dis, c'est des chemtrails. Hein? C'est la fin. C'est,
arrête, il y en a qui vont croire ça.
On peut pas dire ça, hein? Non, c'est une blague. Mais bref, c'est un exercice militaire. Il y a beaucoup d'exercices militaires à la base militaire de Valcartier. Moi, je dors la fenêtre ouverte. Et cette nuit, ça brassait un peu dans le secteur de la base militaire. Il y avait de l'entraînement.
Pour les derniers jours et pour les prochains, on est vraiment dans la zone rouge. Donc exact. Là où on entend le plus souvent les détonations.
Il y a des formations aussi qui se donnent actuellement. Fait que il y a du brasse, camarade. Mais oui, les chemtrails, t'as raison de dire, faut pas faire de blagues avec ça parce que c'est une secte, hein? Les gens capotent. Quand ils voient des lignes dans le ciel, ça s'appelle des contrails, donc des traînées de condensation. Mais les gens ont vraiment l'impression qu'il y a des pilotes d'Air Canada qui libèrent des gaz
produits
qui vont faire
chimiques.
En sorte que ça va avoir un impact sur votre santé ou encore sur la façon dont vous pensez.
Mais moi, je suis traumatisée parce qu'à un moment donné, on avait ri que la Terre était plate à la radio. Tu sais, des gens qui pouvaient croire ça. Je dis, ouais. Avec les... Puis on avait commencé à recevoir des textos puis d'auditeurs que,
qui sont persuadés.
Que j'adore, là, ouais. qui avaient dit ça, puis ça fait, je recule d'il y a 6 ans. Moi, je fais plus jamais ça radio. Plus jamais j'ouvre une porte face à ce que, ben, en même temps, ça nous donne quand même une belle idée de où est-ce qu'on peut aller dans notre imagination là, sur certains points.
Mon chum Christian Page a parlé des chemtrails, puis il disait comme moi que c'était des traînées de condensation. Tous les pilotes savent qu'est-ce qu'une traînée de condensation. C'est quand l'air est saturé, puis l'avion passe, mais ça donne une ligne de nuages, en fait. Puis Christian, quand il avait parlé des chemtrails au 98.5 à Montréal, ben il y avait eu des menaces de mort. Donc, on avait dû l'escorter pour qu'il puisse entrer et sortir de la station sans aucun problème.
La Terre est plate. Jamais je m'attendais dans les années 2020 à ce qu'on me dise. On me remette en question sur ça.
Ah, moi, quand je pense à ça, j'ai une surcharge mentale. Hein? Comment ça va, le pain chaud?
Allô?
Ça va bien? Ça, t'as de l'air en forme.
Ah oui, tu trouves? Mon Dieu, merci. Je suis... Oui, il fait beau.
Y'a-tu quoi de faire pire? Y'a-tu quoi de pire que de se faire dire? T'as de l'air fatigué par 2-3 de tes collègues alors que toi, t'es top shape.
Non, ouais, c'est difficile.
Tu t'en vas dans le miroir, tu dis, ouais, qu'est-ce que j'ai? Là?
Mais c'est pire pour une fille parce que souvent, si on met pas de mascara puis on est habitué d'en mettre, mettons, tous les jours, là, vous allez dire, t'as bien l'air fatigué. Puis, mais non,
on est juste pas maquillé. C'est vrai que c'est
chiant.
Ouais.
Ça, c'est dur.
Hey, je vais être bien honnête avec vous autres. Là. C'est un peu spécial parce que pour la première fois depuis qu'on fait des chroniques ensemble, j'avais aucune idée de quoi vous parler aujourd'hui. J'avais un plan de base qui a été reporté pour la chronique de jeudi. Puis hier, je me promenais dans mes affaires, j'essayais de lire des articles. Il n'y a rien qui m'intéressait. Je ne sais pas pourquoi, puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu la tête pleine. Ça arrive à tout le monde, d'avoir peu d'espace. Là, on dirait que tu réfléchis plus, tu ne sais plus trop comment patenter tes affaires. Puis j'ai fini par décider de me coucher. Puis en déposant mon téléphone, à peu près 15 minutes à regarder dans le vide puis à me dire « je dormirai pas de la nuit parce que là, j'ai rien pour demain », le flash m'est venu. Pourquoi pas en parler de cette saturation du cerveau, de cette surcharge mentale? Fait que j'ai écrit à Caroline Gagnon, notre psychiatre, pour dire « hey, mettons qu'on jase de ça demain, c'est-tu une vraie affaire ou comme je suis seule? » Tu sais, clairement, je le suis pas. Mais est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est conscient? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui partent de là au final, mais on n'a jamais vraiment... On ne s'est pas arrêté assez, je trouve, sur le fait de parler de fatigue mentale, de surcharge cognitive. Fait que je vais y aller comme suit. Est-ce que c'est une vraie affaire, Caroline Gagnon? Oui ou non?
Oui, c'est une vraie affaire. Puis on le vit souvent, puis on s'en rend pas compte toujours. On combat, je pense, un peu la saturation. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est très simple. Le cerveau, c'est un organe qui est complexe, mais qui a certaines limitations par moment, dû à la fatigue, dû à plein d'autres facteurs. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, le cerveau, il va faire comme... On appelle ça un shutdown en anglais, là, mais il va comme se... Il va arrêter de jouer avec nous. Ça lui tente plus comme un enfant.
J'aime ça par texto, 418-971-1021, 418-971-1021. Avez-vous déjà eu ça, vous, cette fameuse surcharge mentale-là? Puis qu'est-ce que vous avez fait pour... essayer de changer ça.
Curieuse de vous lire parce que ça peut arriver plusieurs fois par jour. Quand ça s'étend sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, bien là, c'est là que tu vois qu'il y a peut-être une dépression associée à ça. Mais la source, c'est souvent une surcharge mentale. Puis c'est complètement inconscient comme résultat en passant. Tu sais, la limite d'espace mental n'est jamais la même pour personne, mais même pour la même personne. C'est-à-dire que dépendant des conditions de ta vie, des choses que tu vis, de ton environnement, ta limite... Elle va bouger de jour en jour, puis il y a tellement de facteurs qui viennent jouer sur cette espèce de fatigue mentale-là. Tu sais, le cerveau est affecté, on va se le dire, au quotidien par mille et une affaires, là, l'émotion, fait que le système limbique, la mémoire, stress, fatigue, tout ce que vous voulez. Une conversation peut changer le cours de notre journée. C'est niaiseux comme on est affectable facilement. Là. Et le résultat, bien, c'est qu'il n'y a plus de place dans la pièce. Le disque dur est plein. Vous voyez l'image, là, puis à un moment donné, bien, c'est parce que si tu veux rentrer une nouvelle boîte, il faut que tu sois capable de faire de l'espace. Comment tu remets à niveau un cerveau, une tête surchargée?
Comment faire le ménage de ça? Je veux pas dire aller prendre une marche, parce que moi, j'écoute même pas ces conseils-là, aller prendre une marche, quand je les entends à la radio. Trouver notre façon d'être créatif avec la situation. Si, par exemple, j'ai une soirée, je veux commencer à travailler sur un projet personnel, mais j'ai eu une grosse journée, bon, marcher, c'est peut-être pas mon... Ça se peut que ce soit super bon pour moi, mais ça se peut que c'est prendre un bain, ça se peut que c'est appeler ma meilleure amie et m'amuser, rire avec elle. On parle pas du tout de mon travail ni rien. Puis ensuite, je reviens dans mon activité. Je vais chercher un ressourcement. Ça se peut que c'est regarder des photos de gens que j'aime et des vidéos de choses que j'ai faites dans les derniers temps, puis que là, j'avais le goût de revoir, ou de la musique. que j'ai enregistrés, bon, tout ça. Donc, je pourrais aller, mais moi, mon mot-clé pour vous aider, c'est créativité. Pour moi, ça marche. Donc, j'ai le goût de partager, là. À chaque fois, je me dis, comment je peux faire différent? Comment je peux travailler d'une autre manière? Comment je peux aller... Bon, c'est ça que je cherche à faire une pause, en quelque part, là. C'est, j'essaie de faire une pause à mon cerveau.
J'aime ça, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est vous faites les choses selon vos goûts. Parce qu'au début, elle dit, ben là, moi, prendre des marches.
Mais c'est parce que c'est souvent les conseils qu'on donne. Oui. Tu sais, prends l'air, prends une marche, fais de l'exercice, mange bien, ça va faire du bien.
Ça. Moi, manger bien, j'ai oublié ça, là. Je suis tout le temps à la pizza.
Congelée.
Mais quoi, me faire souffrir autrement, Pascal?
Audrey. Audrey. Pain chaud, enchantée.
T'es deux filles,
mais... J'ai plus le droit de dire pain chaud. Mais Audrey, ben, parce que salut, pain chaud.
Salut Lapin Chaud, des fois, il y a des auditeurs.
Hey, c'est Lapin Chaud qui est en studio.
Là, les auditeurs.
Ouais,
là.
C'est ça. Fait que bref, qu'est-ce que je... Ouais, c'est ça. Quand je souffre là, de stress, exemple, je m'en vais me faire souffrir autrement.
Ouais.
Je vais faire de la course. Avant hier, j'ai été au Mont-Bélair. J'ai fait des petits sprints et tout ça. Sérieux, je termine, puis ça va tellement mieux. Puis je vais juste faire une petite aparté. Ouais, juste faire une petite aparté pour les gens qui ont 100 ans qui nous écoutent. Puis les gens qui ont 60 ans qui nous écoutent, cette chronique-là n'est pas pour vous autres. Là, okay? Parce que vous aviez 13 enfants, puis vous étiez capable de gérer ces 13 enfants-là, en plus de gérer le bonhomme, en plus de gérer la maisonnée au grand complet. Quand vous entendez des jeunes de 20, 30, 40, même 50 ans, chialer en disant « Mais semble que j'ai la tête pleine », je vous comprends de dire qu'on est rendu faible.
Mais okay? L'époque est très différente aussi, puis j'en ai jasé de ça avec Caro, tu sais, puis je vous ferai écouter un extrait tantôt, mais le point, c'est de dire que... on a des éléments qu'il n'y avait pas dans le temps non plus. Notre surcharge se fait différemment. Puis pour revenir un peu sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous disiez, là, sur remettre notre cerveau à niveau, tu sais... Même quand tu es super pressé dans le temps, là, quand tu as un deadline, peu importe, au travail, on va mettre ça au travail, on ne rentre pas les émotions là-dedans, là, tu es mieux de tout lâcher, de sortir de cette surcharge-là, de revenir après, parce que c'est prouvé que l'espèce de petite pause réactive ton cerveau. Fait que, quand je vous disais qu'il faut sortir des bords de la pièce pleine, si tu veux en rentrer des nouvelles, là, on est un peu là. Fait que le but, c'est de jouer un tour au cerveau, d'activer une autre zone que celle qui est surchargée. Fait que, tu trouves la source de ton trop-plein. Je sais pas, moi, si c'est très émotif, ben moi, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose de calculé dans ce temps-là. Meilleur exemple, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître. Quand tu es en maudit à la maison, on fait du ménage. Tu as besoin de faire une tâche, d'exécuter quelque chose qui n'a pas nécessairement un lien avec les émotions. Bon, Pascal, visiblement, fait pas de ménage.
Ce que tu es en train de me dire, c'est que ma blonde n'est jamais en maudit.
C'est un exemple. Moi, ça, wow. C'est le mien. Moi, j'irais pas.
Courir, j'allais faire des escaliers, mais le ménage.
Mais...
J'adore ça, ton exemple, parce que c'est ça, ça divise. Puis il y en a qui se sentent bien. Moi, je me sens bien dans un environnement qui sent bon. Ouais. Qui est rangé. Mais si je t'en maudis, je vais t'installer des tablettes sur du Rob Zombie, puis je vais aller courir, mais je n'irai pas qu'un petit torchon dans la douche.
Tirer des assiettes?
Non, j'ai déjà essayé une salle de destruction, puis ça n'a pas...
Ça n'a pas aidé pantoute.
J'ai eu du verre dans le pied, fait, je m'en souviens.
Bref, d'utiliser la musique, un ami, la nature, le sport, un jeu, un film, ce que vous voulez. La seule affaire, c'est peut-être d'éviter de se surstimuler, parce que là, tu ne t'aides pas, là. Tu es surchargé, surstimule-toi pas, je veux dire...
Avec une tâche de job?
Attends,
ou avec...
Je suis surchargé, puis je dois pas me stimuler?
Ben non, mais totalement. Faut pas que tu te surstimules. Yann, s'il n'y a plus de place dans ta pièce puis que tu te surstimules, par exemple, en regardant ton téléphone, il y a des nouvelles informations qui rentrent dans ta tête, mais c'est parce que la pièce est pleine.
Ou
là.
En appelant une amie ou un ami, puis finalement, la personne a te confie des affaires qui vont pas bien, puis peut-être que tu n'avais pas de place
le
émotionnellement.
Le but, c'est de te décharger. Puis ce que Caroline m'expliquait...
Ah,
il est là, ton point.
Ouais. Je pensais pas. Je l'ai senti, mais j'ai passé free.
Hey, on est mardi. On peut-tu avoir un break? On peut-tu en parler?
C'est-tu quoi? Tu fais deux chroniques par semaine.
Imagine si bon. Ouais. J'essaie d'être pertinente à travers mon manque d'espace mental.
Oui. Est-ce que c'est un problème moderne?
Oui, puis non, en fait. Écoute, on écoute Caro, OK?
C'est plus présent qu'avant, mais solitaire. Tu sais, moi, ma grand-mère a eu 17 enfants, fait que je peux imaginer qu'elle était surchargée. Elle n'avait pas le temps d'aller sur Facebook, j'imagine. Mais ce que je m'imagine, c'est que les femmes ou les hommes travaillaient dur. Ils devaient sûrement avoir des surcharges mentales à l'époque, mais ce n'est pas documenté. On ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça devait exister, que l'être humain se sentait, tu sais, comme en surcharge. Même si des fois, on est un petit peu nostalgique dans le temps. Tu sais, eux autres, il n'y avait pas Internet. Non, il y avait d'autres choses à gérer quand même. Mais c'est sûr qu'il y avait des choses de base de leur survie, là, l'alimentation, la sécurité. Il n'y avait pas d'ambulance qui allait en forêt quand quelqu'un se blessait. Là, fait que ça, c'était inquiétant pour eux. Là. Fait que, il y avait des inquiétudes. Les gens gens avant. Mais oui, c'est un phénomène qui grandit avec les surcharges, avec les exigences de la société, avec la technologie. Comme tu disais, en deux jours, on peut recevoir tant de messages alors qu'avant, on attendait une lettre à la poste. Donc ça, c'est certain que c'est différent, là. Mais elle a toujours été là parce que le cerveau, c'est un organe qui a ses limites depuis des siècles et des siècles. Donc, c'est sûr qu'il y en a eu des surcharges qui ont existé avant.
Ah, je l'adore. C'est des surcharges qui sont complètement différentes,
ben oui,
selon l'époque.
Ben oui. Ça a évolué, tu sais. Puis je lisais des affaires un matin, là. Puis ça disait que, tu sais, en ce moment, mettons, il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui utilise Internet. On échange en moyenne 150 milliards d'emails par jour et on produit maintenant plus d'informations en deux jours qu'on le fait en 2 millions d'années. Tu sais, ça en dit long à quel point le cerveau est peut-être un peu surchargé, justement. La dernière question que j'avais pour elle, puis c'est suite à une conversation que j'ai eue avec un collègue, avec Max Larouche un peu plus tôt, parce que je disais, hey, je suis lourde.
Max le surchargé.
Mais non, mais tu sais, je disais, j'ai plus de place pour penser. J'ai dit, ça te fait pas ça des fois?
Hey, il swipe à droite, là, puis il est surchargé.
Ouais, mais écoute, il me disait que lui, ça y arrivait pas trop, il était pas trop stressé. Fait que j'ai demandé à Caroline Gagnon, notre psychiatre, est-ce que c'est typiquement genré féminin ou masculin, ces réactions-là?
Bien, on a tendance à penser que les femmes se surchargent elles-mêmes, tu sais, par leur rôle de mère, tout ça, un peu plus. On a cette impression-là, mais moi, j'aimerais attirer l'attention sur la personnalité, plus que le sexe féminin ou masculin. Donc, j'ai des collègues masculins qui sont surchargés facilement parce qu'ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup de choses à la fois, et ils vont me dire, genre, tu sais, que ça dépend de leur personnalité, ils sont très perfectionnistes, ils veulent bien faire les choses. C'est souvent des gens comme ça qui sont surchargés, les gens qui sont, tu sais, qui sont soignés, qui veulent que... Vraiment, là, je dirais le perfectionnisme va un peu avec ça, mais la femme ou l'homme. Donc, on va regarder, nous, en psychiatrie, on va regarder plus la personnalité. C'est plus ça qu'on va regarder dans l'évaluation. Quelle personnalité? Comment tu étais enfant à l'école? Comment tu es avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes amis? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? Donc, on va regarder un peu le profil de personnalité. On va se faire une idée du patient. Puis, souvent, la surcharge va aller avec ces gens-là qui sont très, très performants. Sont très, très, on dit obsessionnels là, dans notre jargon, c'est-à-dire qui ont des traits de perfectionnisme.
Donc, plus tu es performante comme toi, tu peux avoir une surcharge mentale. Puis pour ce qui est de Max Larouche, ben, je pense qu'on a notre réponse.
Ça vient avec une pression que tu peux te mettre aussi. Mais bref, j'ai aimé l'angle de Caroline parce que ça a l'air spécial en fatigue mentale de demander à ton cerveau d'être créatif. Mais la spontanéité est ton meilleur ami. Ce qu'elle me disait, là, c'est la spontanéité, c'est une vitamine pour le cerveau. Fait que, tu sais, de faire les choses différemment de temps en temps, ça peut faire respirer. Puis ça peut être super banal, mais tu sais, juste de changer de setup, de changer d'environnement, de basculer vers autre chose, de déjouer peut-être un peu les habitudes, finalement, de ton cerveau. Si tu fais toujours les mêmes tâches de la même façon au même moment quand on parle de travail, bien, change donc un peu de façon de faire si tu sens que tu as le syndrome de la page blanche. Pareil en émotion. Fait que de passer de réaction à création, qu'elle m'a dit, j'ai quand même trouvé ça beau. Fait que j'essaie de créer, les amis,
de
pour jeudi.
De réaction à création.
Oui, de réaction quand tu te sens surchargé, de paniquer, à essayer justement de créer peut-être un environnement
pour
différent
l'espace.
Pour faire un espace dans ta pièce.
J'adore
qui est
ça, c'est hyper psychologique. Puis je sais que tu aimes ce type de sujet. Là, j'aimerais ça que tu mettes sur ta liste, puis je viens d'y penser, le syndrome des portes.
Le syndrome des portes.
Ouais.
Je vais aller faire la recherche parce que je ne sais pas c'est quoi.
En ce qui a trait à la mémoire, tu vas halluciner.
Ah ouais?
Puis ça a été étudié scientifiquement, puis ils ont trouvé une solution au fameux syndrome des portes.
Ouais. Mais tu vas avoir le syndrome de la porte.
Ouais, syndrome si de la porte, là, ouais. Ça dépend de quelle grandeur est ta maison.
T'as une pièce ou pas?
Je me suis pris une note, mais si vous êtes chargé mentalement, bien, on se comprend. 88-971, je suis curieuse de vous lire.
Tester. Parce que Yannick, tu dis, toi, c'est l'activité physique.
Oui.
Bien, ça se peut que ça soit une activité que tu n'as jamais fait encore qui va t'amener à la crise vide-là.
Ça peut être aussi simple, Audrey, que jouer à NHL. Là.
Oui.
C'est sur Xbox,
oui.
Jouer à des jeux vidéo. Oui. Moi, ça me vide complètement la tête.
Mais il y en a qui copent avec ça. Et là, la difficulté pour faire attention.
Moi, elle m'a dit, ça te prend 3 minutes. 3 minutes, c'est le chiffre. Décroche 3 minutes. Fais ce que ça te tente. Va te chercher un verre d'eau. Fais une colle à ton chum, ta blonde. Là. Fais juste laisser ton cerveau respirer 3 minutes où tu ne penses plus à ce qui t'obsède. Là. Déjà là, tu vas voir que la pression
descend.
J'espère
qu'elle n'écoute pas 3 minutes une game NHL, c'est 20 minutes.
Mais ça veut dire que t'étais très surchargé. Il y en a qui auraient besoin d'une colle.
Ouais.
Audrey.
Tu veux un câlin?
Non.
Oui,
non,
oui,
c'est
oui,
ça, il
n'est
pas très colleux.
Hey, c'est toi qui as volé mon chocolat?
Non, tu as du chocolat, moi, c'est plus ça ma question.
Ils m'ont tous dit que c'était toi qui avais volé mon chocolat.
Pourquoi j'aurais volé ton chocolat?
C'est toi qui as volé.
T'as-tu volé mon chocolat?
Je te jure que non.
Elle dit que non.
Ben, ouvre ta sacoche.
Ouvre ta sacoche.
J'ai pas de sacoche.
Ta pochette.
Ta poche.
J'ai pas de pochette.
C'est toi qui as volé. C'est Audrey qui a volé.
T'as volé mon chocolat?
T'as volé
non,
chocolat.
J'ai jamais volé de chocolat à personne. Je jure sur ma tête.
Je pense qu'elle a volé ton chocolat.
Tourne sur toi-même.
OK, lève-toi, voir, ça tombe pas de ta poche.
Tu sais pourquoi on parle de ça? Tu sais pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a un gars à Montréal qui achale le monde, il se filme, là, il achale le monde sur le trottoir, puis il dit aux gens qu'il connaît pas, à qui il a jamais adressé la parole, « T'as volé mon chocolat. »
Ah, oh mon Dieu, la santé mentale.
Puis là, il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui restent sur place en disant, ben non, tu sais, avec l'empathie, t'as perdu ton chocolat. Puis il y en a d'autres qui, oh, qui font comme toi, qui montent leur poche. Non, non, j'ai pas volé ton chocolat.
C'est juste, c'est pas moi!
On va être un peu dingo. Hey, on revient, merci Audrey. On t'écoute dans le retour tantôt.
Salut!
Salut!
Marceau, le midi. Du doudoudou, Marceau 2.0.
Changé, moi, là.
Tente comme un agneau.
Je te regarde, c'est vrai que t'as changé, hein? J'essaie d'y aller par étapes, t'sais.
Boulevard.
418-971-1021, s'il se passe quelque chose sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles. C'est 14 degrés sur Québec, alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui, maximum de 19. Ce soir, quelques nuages, minimum de plus 4 degrés. Demain matin, ce sera nuageux, c'est ce qu'on nous mentionne. Peut-être un peu de pluie en après-midi, avec un maximum de 9 degrés et un minimum de plus 5 en soirée avec de la pluie intermittente. Jeudi, ce sera de la pluie, maximum de 12 degrés. Vendredi, c'est le retour, le grand retour du soleil avec un maximum de 15 degrés. Et samedi, 11 mai, ce sera ensoleillé avec un maximum de 17. Dans quelques minutes, on aura un tirage à faire pour les Doobie Brothers.
Oui, ils vont être de passage au Centre Vidéotron en octobre prochain.
Peut-être un beau cadeau pour la fête des mères. Hey. Ah, c'est bon.
Oh yeah.
J'adore.
Je ne sais pas si Claude Villeneuve, chef de l'opposition à la Ville de Québec et du Parti Québec d'abord, a le pied dans le sang, mais d'après moi, il doit écouter ça quand il est dans son cabanon. Salut Claude Villeneuve! J'essaie de me mettre de bonne humeur, ça paraît-tu?
Ah oui, non, ça prend ça. Faut éviter le soleil dans nos vies.
Ben oui. Vous, statué sur est-ce que vous allez vous présenter ou pas à la mairie de Québec aux prochaines élections?
Hey, vous partez ça fort, vous,
oh,
tu nous connais.
Ben oui. Pas de tataouineur.
Ah, la réflexion se poursuit ici. On en discute en équipe. Par équipe, genre, je parle autant de mes conseillères et conseillers, puis je parle aussi de ma blonde puis de mes filles. Donc, c'est des grosses questions à se poser, mais je suis encore dans mes temps. Là.
OK. Sam Hamad, comment il va?
Ah, Sam, il est de bonne humeur. Là. Il prend des cafés avec pas mal de monde de ce temps-là.
Ah ouais.
Avec non, trop de monde?
Avec du bon monde, avec du monde intéressant, mais c'est ça. Nous, on tient au courant de tout ce qui se passe en ville. On parle avec tout le monde, mais on garde l'œil sur la balle, comme on dit.
Est-ce que la décision de Sam Hamad va avoir un impact sur votre décision à vous? Est-ce que vous allez attendre de voir la décision de Sam Hamad avant de nous répondre à nous?
Non, moi, c'est pas ça. C'est pas à ça que ça va, là. En tout cas, il y a une ministre qui dit « chacun gère sa fougère ». Personnellement, chacun gère son agenda et ses ambitions. Là. Je me valide pas avec d'autres candidats avant de décider si j'y vais.
Parfait. Je ne sais pas si, Tom, vous avez dit de quel sujet on allait parler, mais j'imagine que vous deviez vous en douter quand vous avez vu le journal de Québec de ce matin.
On a fait notre revue de presse ce matin, parle de nouvelles taxes.
Ah oui. Votre opinion sur la nouvelle taxe sur l'immatriculation, on parle d'une taxe provisoire, on parle d'une taxe de 10 $. Donc, le montant va s'appliquer à partir du 1er janvier 2025 pour toutes les voitures immatriculées dans la capitale. Votre opinion à vous sur le sujet?
Nous, on n'appuiera pas ça. D'abord, ce sera pas 10 $ là. Le communiqué hier est clair. C'est qu'on a fixé du côté du maire le montant de 10 $ C'est comme temporaire, là. C'est pour s'assurer de pouvoir imposer la taxe. Mais on se laisse du temps pour évaluer, elle va être de combien exactement. Donc, nous, on peut pas mettre notre signature en dessous d'une taxe qu'on sait pas combien les citoyens vont payer finalement, là, tu sais. Puis là, ça commence à en faire pas mal, là, les nouvelles taxes avec M. Marchand, là, tu sais, dont la taxe Minou, là, dont on a discuté plus tôt. Donc, d'autant plus que le maire de Québec est isolé là-dessus. Il n'a pas réussi à aller chercher l'appui des maires de Saint-Augustin, de l'ancienne Lorette, de Lévis, pour que ça s'applique également dans leur ville. Là, si c'est juste les citoyens de Québec, nous... Ah oui, puis dernier point, le maire de Québec avait dit, avant d'augmenter la taxe sur la matriculation, on va être capable de dire aux citoyens quel nouveau service ça va leur donner. Bien là, on n'a rien de ça. On n'a aucune proposition sur la table. Donc, nous, on peut pas donner notre appui à ça.
Bien, M. Villeneuve, vous lisez dans mes pensées. On va écouter l'audio suivant. Tendez l'oreille.
On peut décider aujourd'hui que ça va être 10 $ comme taxe de matriculation. Ça va être 100 $ ça va être 200 $ Ça n'a aucune valeur si je ne suis pas capable de dire qu'est-ce que ça ajoute au budget et qu'est-ce que ça va permettre pour améliorer les transports. les transports collectifs. Alors, avant de prendre une décision comme ça, je vais avoir un portrait plus global.
Oui, ça, c'est il y a de ça quelques jours. Ça n'a aucune valeur, mais on va demander quand même un 10$ supplémentaire pour ce qui est des automobilistes pour le transport en commun.
Oui, mais c'est un peu arbitraire, là, 10$ comme ça.
Ben, c'est n'importe quoi. Les audits de performance, M. Villeneuve, n'ont pas encore été... c'est pas terminé. Vous n'en avez pas pris connaissance. Les médias n'ont pas pris connaissance. Les citoyens n'ont pas pris connaissance. Puis le maire n'en a pas pris connaissance. Puis le déficit conjoncturel est d'à peu près... vous avez retrouvé à peu près l'achalandage au RTC d'à peu près 95%. Là. Donc, c'est pas un déficit structurel. Oui. Ben, peut-être qu'il y a une problématique dans la structure au RTC. Mais visiblement, vous allez avoir besoin d'encore plus d'argent pour le RTC parce que les dépenses sont là plus que les revenus.
Oui, c'est ça. Sur l'autre sens, on s'en pose beaucoup des questions sur la gestion du RTC. Là. Vous avez vu, on avait parlé abondamment là, du 35 000 piastres de tasse qui avait été acheté aux employés. Là. On parlait cette semaine là, du bon buffet acheté chez Le Boucan. On les salue. C'est une excellente boucherie, mais dont on apprécie beaucoup les produits, mais un gros buffet qui a été offert aux employés du RTC. On regarde, il y a beaucoup de cadres. On le sait, il y a beaucoup de cadres au RTC. Ils ont des bons salaires, ces gens-là.
Ces dépenses-là, on les apprend quand même parce qu'il y a des journalistes qui font leur travail qui sont pertinents parce que ça ne vient pas dans l'actualité sans ça, sinon.
Ah oui, avec respect, il y a aussi des oppositions qui fouillent ça.
Absolument.
On essaie d'utiliser nos accès pour ça. Mais c'est ça. Pendant ce temps-là, à Vanier, on enlève des abribus qui sont en fin de vie puis on ne les remplace pas pour des raisons budgétaires. Donc,
c'est parce qu'il y en a un ici qui a coûté 1 million.
Il y en a plusieurs. Vous avez plusieurs abris d'autobus au coût d'1,3 million $ sur le territoire. Là.
Mais c'est ça. Tu vas avoir des gros abris d'autobus chauffés, chromés, tout ça, mais dans les quartiers comme Vanier, tout ça, là, c'est que les gens y attendent l'autobus dehors au froid puis à pluie. Là. C'est vers ça qu'on s'en va. Je trouve que la RTC fait des drôles de choix. Le maire, hier, il annonce le déploiement. Là, on va avoir 500 nouveaux vélos. Dans l'ensemble des territoires, des quartiers de la ville, là, je pense 35 là, sur 39, d'ici 2028, ça coûte cher, ça, puis on ne nous ventile pas ça vraiment. Puis là, ça, c'est fait pas par le RTC directement, c'est une division du RTC qui s'appelle Capital Mobilité, dont on n'a pas accès aux livres. Donc, les revenus, combien ça va rapporter, les coûts, combien ça va coûter, on le sait pas. Le RTC a de l'air à tirer dans toutes les directions de ce temps-là. On est en déficit, on augmente les taxes. On se paye des tasses, un buffet, on enlève des abribus, on a des petits abribus de fortune ici, des abribus plus coûteux à d'autres endroits. Là, il faut faire le ménage là-dedans, là, c'est rendu n'importe quoi. Puis là, quand on rentre à vélo là-dessus, c'est comme le RTC en folie, là, tu sais, ça tire dans toutes les directions, mais... Quelque chose que le maire sait, par exemple, c'est qu'il veut aller chercher de l'argent de plus dans les poches des citoyens.
Bien, c'est là. C'est là où on est tanné. Puis hier, je jasais sur Twitter avec des auditeurs. Tu sais, le 10$, en bout de ligne, on ne le sentira pas. Mais c'est juste le concept de, bien, gérez-vous à l'intérieur. Essayez d'augmenter l'achalandage avec les montants qu'on vous donne. Arrêtez d'en donner du gros luxe, là, parce que les gens, ils prendront pas plus l'autobus. Là. Au Québec, à Québec du moins, c'est tout le temps entre 7-8% pour ce qui est de l'achalandage depuis des années, malgré tous les investissements qu'on a faits. Puis je vous exclus de ça, M. Villeneuve, parce que vous dites que vous n'êtes pas pour cette augmentation-là de 10$ temporaire. Mais la semaine passée, il y en a une que... Là, je vous exclus de ça, là, qui a pogné un caillot là, en disant qu'on devait augmenter de 1167 $ tous les automobilistes pour financer la gratuité du transport collectif dans la capitale. T'sais, Jackie Smith, elle l'a échappé solide.
Depuis tantôt, je me tais parce que j'allais dire, d'un côté, tu as un Bruno Marchand qui donne une taxe de 10$ qui va-tu vraiment changer quelque chose puis qui est peu expliqué. Puis de l'autre côté, dans une autre position, tu as le 1000$. Tu as Claude Villeneuve au bout du fil qui doit dire... Allez-y, mes gorlots!
je voudrais surtout pas avoir l'air complotiste, là, mais il y a aussi quelque chose, il y a un petit peu de théâtre là-dedans, là, Mme Smith, qui arrive la semaine passée en parlant de 1168 $. Moi, j'étais à Beauport le vendredi, puis j'ai rencontré du monde qui comprenait que c'était le maire qui voulait augmenter ça de 1168 $. Puis là, non, finalement, c'est juste 10$. C'est comme si Mme Smith était arrivée avec le gros montant là, pour donner l'air au maire là, d'arriver avec une augmentation modérée. Puis là, on dit 10, ce sera peut-être 50 ou 60 à la fin, mais ça a l'air smooth là, à comparer à 1100 quelques dollars. Là. Donc,
ils se sont parlé pour s'aider, selon vous, M. Villeneuve?
En tout cas, on le remarque au conseil là, que souvent, là, ça se fait souvent des passes sur la palette là, entre Mme Smith et M. Marchand. Puis on s'entend, là, Bruno Marchand, ça fait un an là, qu'il applique le programme de transition Québec. Là, c'est, que ce soit sur le vélo, sur le transport collectif, tout ça. Je veux dire, il y a manifestement une très grande complicité entre les deux. C'est correct, ils ont le droit. Là, mais nous, notre job, c'est d'en parler. T'sais. Et c'est ça. Là. Et puis, tu sais, on est là à parler de taxes. Claude Villeneuve, il dit, moi, j'irai pas dans cette direction-là. Bruno Marchand, 10 $ peut-être 50, 60, on ne sait pas. Jack Smith, 168. On est tous là à parler de combien qu'on va aller chercher des taxes dans les poches des citoyens. Mais le citoyen, lui, n'est jamais dans la discussion. Le citoyen, là, jamais on le fait participer à ça. C'est toujours entre élus, entre politiciens, là, la ministre d'un bord, on discute de combien on va aller chercher dans les poches du monde. Mais la personne qui va payer, les personnes qui vont payer, ils ne sont jamais partie prenante à la discussion. Ça se fait au-dessus de leur tête.
Est-ce que, là, on parle d'un autre dossier, mais avez-vous vu la dépense pour le Grand Défi Pierre Lavoie, les deux équipes qui ont été créées pour le vélo, donc des gens de la Ville de Québec qui vont participer au Grand Défi Pierre Lavoie? Est-ce que vous avez vu ça passer dans les dépenses, un genre de 29 000 $ des contribuables qu'on utilise pour participer au Grand Défi Pierre Lavoie?
Oui, puis moi, j'avais toujours compris que quand on voulait participer au Défi Pierre Lavoie, il fallait lever des fonds, tu sais, comme participant.
On est
c'est
deux.
Toi qui dois aller chercher des fonds, te faire commanditer, te faire donner des dons, ta famille, tes amis, l'entreprise, je ne sais trop. Puis là, ben, on a des gens de la ville qui vont participer au Grand Défi Pierre Lavoie, puis ça va être sur le bras du contribuable.
Au niveau moral et éthique, là, parce que là, il y a un politicien, c'est Pierre-Luc Lachance, capitaine Bretel, là, que je vais nommer. C'est lui qui est responsable du déneigement. Lui va prendre l'argent des contribuables pour aller faire le Grand Défi Pierre Lavoie, pour prendre des photos, pour mettre ça sur ses réseaux sociaux, pour dire « Regardez, mes très chers citoyens, j'ai fait le Grand Défi Pierre Lavoie. » Ça fait du capital politique avec l'argent des contribuables à Québec, là.
Oui, puis on s'adresse beaucoup d'opérations de relations publiques à la fin. Puis c'est ça, je ne sais pas si M. Lachance, il va faire beaucoup de téléphones là, pour solliciter ses parents et amis pour le commanditer là, dans cette entreprise-là. Tu sais, c'est facile là, aller participer au défi Pierre Lavoie. Là, les parents là, qui sont là, je ne sais pas si la formule existe encore, là, à faire des efforts pour aller chercher des cubes d'énergie pour leurs enfants, pour participer aux activités de la Fondation Pierre Lavoie. Puis là, ben, quand tu es un élu, ben, ça a l'air que tu peux te faire payer le kit là, pour aller prendre des photos avec les grands de ce monde. Parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de gens là, à Québec qui aiment ça être vu au Grand Défi Pierre Lavoie. C'est facile quand tu te le fais payer par quelqu'un d'autre.
T'sais. Exactement, mais éthiquement et moralement, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens de
prendre
l'argent.
Ordinaire.
Ben, c'est très ordinaire. Puis c'est... Est-ce que qui a accepté ça comme dépense?
Ça, c'est je sais pas si ça a passé par l'exécutif ou par le je pense pas qu'on ait vu ça au conseil municipal. Je pense que c'est une dépense qui a été autorisée par le comité exécutif. Mais sur la mécanique exactement, là, laissez-moi faire des petites vérifications, je reviendrai là-dessus.
Mais ça n'a pas passé au conseil de ville.
Pas que je sache, non, mais je me garde une petite réserve parce que des fois, on adopte, il y a des choses, là, des petits caractères dans les sommaires qu'il faut être bien sûr d'avoir lu, mais je vous reviendrai là-dessus.
Domaine Mézerais, est-ce encore possible d'aller se promener là? Est-ce que les trails sont belles?
Moi, les échos que j'avais eus, c'est qu'il fallait remettre ça beau, là, parce que comme sur notre propre terrain au printemps, des fois, on a des surprises. Mais je suis pas mal sûr que la gang du domaine de Mézerais sont en train de remettre ça beau. Là, c'est, j'irai faire un tour, puis je serai à même de le constater. Mais je sais qu'il y a des activités qui se déroulent au domaine de Mézerais toutes les fins de semaine. Puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été coupés là, à l'automne passé. Ça paraît, mais on va retrouver notre domaine en bon état, j'espère bien.
Oui, puis le plan d'eau aussi, je pense qu'il est à revoir parce que c'est pas propre. Mais ça, c'est moi qui le dis. Il y a un enjeu important en ce moment qui a fait beaucoup réagir, pas seulement sur le pourquoi, mais sur le fond, des négociations entre citoyens et Ville de Québec. C'est celui de la Marmota. Ça fait quelques jours, quelques semaines déjà qu'on est là-dedans. Les gars de la Marmota qui ont monté ça à coup de pelletage, sans machinerie, de jus de bras dans les 10 dernières années, qui ne chargent rien aux gens qui vont sur le terrain près du IKEA, qui s'amusent là depuis des années finalement. OK, ben oui, c'est un parcours qu'on dit un peu plus extrême de vélo de montagne, mais ça reste que ça a toujours bien roulé. Puis, il était prêt à parler avec la Ville de Québec pour pas que ça devienne finalement des sentiers pédestres, ce qu'on a appris dans les derniers jours. Et il avait contacté l'équipe de M. Marchand, il avait contacté Jean-François Gosselin, puis on avait dit, ben parfait, montez-vous une pétition, allez la déposer à l'Hôtel de Ville. On va faire en sorte que la date du 7 mai soit la nouvelle date pour qu'on puisse avoir des négociations. Donc, on va repousser à la destruction de la Marmota. C'est pas ce qui est arrivé finalement dans l'actualité, sans même avoir contacté ces gars-là. On apprenait plein d'informations, puis l'information là, qui est arrivée en dernier lieu, c'est que ça sera détruit. Ce soir, manifestation pour sauver la Marmota de plein de tripeux de vélos de montagne. En tant que chef de parti, Claude Villeneuve, tu en penses quoi de cette façon de faire-là, de la ville? Puis qu'est-ce que tu penses aussi de la préservation d'un site comme la Marmota?
Mais ça c'est gênant parce que c'est un ratage complet là, du côté de la ville. Là. C'est, bon, il y a eu des choses inexactes, là, pour pas dire des mensonges qui ont été dit aux citoyens là, par Jean-François Gosselin, qui disait que c'est, on avait une obligation du ministère de l'Environnement de remettre ce site-là dans l'état actuel. C'est pas vrai. Après ça, M. Gosselin était allé dire sur une autre station, « Oui, mais c'est pas fait encore, on va discuter, on va s'asseoir. » Alors que du côté de l'administration, on faisait déjà rouler la machinerie ou à peu près.
Mais est-ce que M. Gosselin était au courant, selon vous, que ça se passait comme ça, ou il est allé parler, puis après ça, on l'a mis au courant? Non, c'est plus avancé qu'on pensait, là.
Ben, c'est son dossier. Là. C'est pas la première fois qu'on trouve que M. Gosselin manque de rigueur dans un de ses dossiers. Là. C'est vrai, c'est rendu qu'il parle au nom de la ville. Là. Il est rendu membre de l'exécutif. Là. Donc, c'est un peu gênant. Ça crée des attentes aux citoyens. Puis je peux vous dire que les citoyens qui sont concernés par ça, là, M. Lachance, là, ils sont pas contents là, de la façon qu'on les a traités dans ce dossier-là. Là. C'est pas des bandits, ces gens-là. Moi, je sais pas. On dit qu'il y a des arbres qui ont été coupés qui n'auraient pas dû l'être. On dit qu'il y a des racines qui sont mises à nu. OK, ben, y aurait-il moyen de s'entendre là, pour que ce soit géré de la bonne façon? En parlant avec eux, là, avec ces gens
Ils veulent parler en passant.
M. Villeneuve, on embarque sur le terrain où je voulais vous amener. Moi, j'ai invité les deux en entrevue. Donc, Jean-Philippe Nadeau-Langevin, qui est un des porte-parole de la Marmota. J'avais invité Jean-François Gosselin. Puis je voulais faire un duo pour que la ville puisse s'expliquer.
Et un dialogue.
Puis que Jean-Philippe puisse expliquer son cas de la Marmota avec ses collègues. Ces gens-là sont là depuis 2009. Ils entretiennent le circuit depuis 2009, ramassent toutes les cochonneries. C'est extrêmement propre. Et Jean-François Gosselin me dit, juste te dire, Yannick, qu'il y a déjà eu des accidents. Puis pour ce qui est des services d'urgence, c'est compliqué pour que les services d'urgence se rendent jusque-là. Et Jean-Philippe dit, bien, c'est compliqué. Certains, ils ont mis des blocs de béton pour pas que les camions de pompiers
de la ville
ou encore l'ambulance puissent avoir accès à ce site-là. Donc, effectivement, ça aurait été quelque chose de régler assez facilement si on avait enlevé ces blocs de béton-là. Ensuite, je me suis dit, bien, c'est clair que les gens de la ville ont pris contact avec les porte-parole de la Marmota pour discuter. « Est-ce possible de vous partir à un OSBL? On va vous le laisser, ce terrain-là. On ne veut pas que ça nous coûte rien. Vous vous en occupez depuis 2009. On va
assurez-vous.
Assurez-vous. Puis on va juste vous assister dans les opérations de la Marmota. Mais concrètement, c'est juste l'OSBL qui va s'occuper de ça. »
Surtout que depuis des années, tu le dis, c'est plus de 10 ans. C'est pas une histoire de ça fait 6 mois que
mais,
ça existe.
Mais ça ne s'est pas fait. Puis là, ben, j'ai compris pourquoi que ça ne s'est pas fait, M. Villeneuve. Voulez-vous que je vous le dise?
Ben, je vous écoute.
Ben, j'ai envoyé le téléphone de Jean-Philippe Nadeau-Langevin à Jean-François Gosselin parce que Jean-François Gosselin ne les avait pas contactés.
Ben oui.
Donc, par la suite, ils ont réussi à se parler, Jean-François Gosselin et les gars de la Marmota. C'est au conseiller de la ville d'aller de l'avant. C'est pas un nobody de la Radio de Québec de faire le contact entre un conseiller de la Ville de Québec, un conseiller élu qui est bien payé, soit dit en passant, puis les gars de la Marmota. C'est à eux autres de faire les premiers pas, pas à moi.
Ce qu'on me dit, c'est que on faisait pas trop attention à ce qui se passait là. Puis c'est quand il y a eu les consultations sur l'avenir du secteur Chaudière, les gens de la Marmota sont allés présenter un mémoire pour dire comment eux, ils pensaient que leur projet pouvait s'inscrire là-dedans. Puis ça, puis c'est là que tout le monde s'est réveillé. Oups, pourquoi ils sont là, eux autres? Faudrait voir ce qu'on fait avec eux, tu sais. Puis c'est
ça.
Dès qu'on s'est mis à en discuter, ben, tu sais, ça a toujours été en termes de, tu sais, comment est-ce qu'on met fin à leurs activités. Tu sais, s'il y avait des mauvaises pratiques, s'il y avait des choses qui étaient mal faites, des arbres coupés ou des racines d'idées, n'importe quoi, ben, qu'on s'entende avec eux sur la manière de gérer ça. Comment est-ce qu'on protège le site? Tu sais, un lieu de protection, de conservation environnementale, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit utilisé, il faut que les gens en profitent. C'est bien beau conserver, le mettre en dessous d'une cloche de verre, mais s'il se passe rien là, ben, c'est plate. Ouais. Moi, je pense qu'on aurait dû... Je parle de ce dossier-là, moi, je me suis pas rendu sur le site, je sais pas comment ça marche, mais il me semble que on aurait pu s'entendre justement avec un OSBL, avec une façon de fonctionner, avec un interlocuteur, pour faire fonctionner ça. Puis s'il y a des entraves pour envoyer les services d'urgence, bien qu'on fasse les aménagements nécessaires.
Parce que je comprends peut-être les blocs de béton, c'est pour pas que des voitures aient du fun, finalement, tombent dans des trous de vélo de montagne, mais c'est sûr qu'il y a une façon de faire. Des endroits où on peut pratiquer le vélo de montagne, il y en a un, puis il y a un autre à Québec, puis tout est accessible, on est capable d'aller avec les services d'urgence, intervenir si on a besoin. Mais M. Villeneuve, il y a un autre point à ça que je trouve un petit peu triste de constater, c'est que c'est plus de 14 000 personnes qui ont signé la pétition. On parle pas d'une gang de jeunes, ils sont 15, puis ils vont, puis finalement, ils ont possession d'un terrain de la ville pour eux, tu sais, puis ils vont faire « bosse correct, notre fun est fini après 10 ans, on en aura profité ». Là, il y a 14 000 personnes qui ont signé cette pétition-là. Il y a même des citoyens qui l'ont signée parce qu'ils se disent « Hey, laissez les jeunes sortir dehors, avoir du fun, t'en as de tous âges là-bas, puis d'autant plus qu'on les trouve tout le temps à sa console ». Il y a quelque chose de particulier quand il y a 14 000 personnes qui prennent le temps d'aller écrire dans cette pétition-là.
Oui, puis c'est parce qu'il y a un enjeu de prise de risque là-dedans aussi, c'est que les... Tu sais, ben oui, c'est un sport qui est peut-être plus... où tu risques plus de blesser que si tu pratiques le tricot, là, je comprends, là, mais je sais pas. Moi, quand je me rappelle quand j'étais jeune, on faisait du snow puis du ski, puis à l'école, il y en avait toujours un qui avait un bleu dans le plat. Ça fait partie de la vie.
C'est parce que ça va être payant pour la ville à long terme, de arrêter ça, là, l'affaire bénévole, puis les gens qui peuvent y aller gratuitement, puis essayer de diriger une autre façon faire en sorte qu'on puisse récolter quelques sous avec le terrain en même temps pour l'entretenir. Ça va demander de la main-d'œuvre payée, là.
Bien, ce qu'on nous dit, c'est que Québec est rendu une destination de choix pour le vélo de montagne, puis qu'on est réputé parce qu'on a plusieurs sites, justement. Je pense que la Marmotta, dans l'ensemble de cet éventail-là, puis que t'as du débutant, t'as de l'intermédiaire, t'as de l'expert, tu sais, il aurait pu y contribuer. Puis justement, c'est que... Moi, comme conseiller municipal, là, je passe mon temps là, à me faire demander des services que la ville devrait offrir, puis dire non, on n'a personne qui fait ça, tout ça, puis dire hey, ce serait-tu le fun qu'il y ait un organisme qui vienne le faire, pour pourrait soutenir, puis voir peut-être les financer un peu, puis les aider à s'organiser. Là, on l'a. Ça se passe. Il y a des gens qui sont sur le terrain qui en font une passion, qui ont dû consacrer des heures justement à taper le piste et tout ça. Y aurait-il eu moyen de s'entendre avec eux puis de les aider au lieu de se dire « OK, on met la clé dans la porte et vous irez ailleurs ». Moi, je trouve que c'est vraiment dans le sens contraire de ce qu'on veut de la part de notre ville.
Claude Villeneuve, un gros merci. On se croise à Marmotta bientôt dans les sentiers en vélo de montagne.
Je serais peut-être plus là pour vous encourager.
Salut! Merci! Bye-bye. Claude Villeneuve, chef de l'opposition à la Ville de Québec et du Parti Québec d'abord. Pourquoi on lui parlait? Ben, on parlait de cette surtaxe de Bruno Marchand, 10 $ de plus, que les autres maires de la grande région de Québec n'ont pas demandé. Ancienne Larette, on refuse une augmentation pour ce qui est des automobilistes. Lévis, on refuse l'augmentation pour les automobilistes.
Saint-Augustin,
même affaire. Mais le maire de la Ville de Québec, qui se base absolument sur rien pour augmenter la taxe de transport en commun, lui, il se base sur rien. Puis en plus, il s'en est vanté il y a de ça quelques jours.
On peut décider aujourd'hui que ça va être 10 $ comme taxe d'immatriculation. Ça va être 100 $, ça va être 200 $. Ça n'a aucune valeur si je ne suis pas capable de dire qu'est-ce que ça ajoute au budget et qu'est-ce que ça va permettre pour améliorer les transports collectifs. Alors avant de prendre une décision comme ça, je vais avoir un choix global.
Donc, voilà. Encore une fois, il a menti.
Mm-hmm.
Il a menti tout simplement.
Ça fait une couple de mensonges, là, parce que là, il y a ça, il y a d'autres choses.
Le pourcentage avec le tramway aussi.
Qu'est-ce qui se passe, là? Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le mandat d'un seul mandat.
On ne peut pas administrer une ville pour l'équipe avec ce genre de... façon de faire là.
Non, puis je ne sais pas honnêtement comment il va s'en sortir au conseil de ville. Je veux dire, c'est même pas explicable, le 10 $. Puis tu sais, je répète, pour ce qui est du RTC, là, le déficit conjoncturel est réglé à peu près à 95%. Donc, la difficulté qu'on avait avec le manque d'achalandage, on a recueilli 95% de ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, il y en a plus de conjoncture, là. C'est 5%. Ça veut dire qu'il arrive dans le trou de 30 millions même s'ils ont leur achalandage d'avant. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on coupe avant? Puis les audits de performance ne sont pas encore rendus publics, ne sont pas encore terminés d'ailleurs. Guilbeault n'en a pas encore pris connaissance. Le maire Marchand ne les a pas. Ils se sont basés sur absolument rien. Mais tu sais quoi? Le maire Marchand va revenir dans les prochains mois parce qu'il sait que c'est le maire d'un seul mandat. Puis ce ne sera pas juste un 10$. On va y aller probablement dans le 20, 30, 40, 50, 60$ supplémentaires. C'est un peu gênant, mais c'est l'administration Marchand qu'on a là actuellement. OK. Hey, nous, on a des cadeaux à faire aux auditeurs. On va le faire par texto. Ça me prend le nom de cette chanson-là. On a combien de billets?
On a une paire
on a une
vous
paire
donner.
De billets. Ça se passe quand, ce show-là?
Ça se passe le 15 octobre prochain pour leur tournée 2024. Les billets qui sont en vente dès vendredi à 10h via gestef.com et Ticketmaster. Donc, les Doobie Brothers au Centre Vidéotron. Une présentation de Live Nation et de Gestev. Paire de billets pour vous autres. 418-971-1021. C'est quoi, cette tune-là?
Merci, monsieur, madame. C'est quoi la température présentement? C'est confortable, je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. C'est 16 degrés sur Québec, alternance de soleil et nuages, maximum de 19. Est-ce que les opérations militaires dans la grande région de Québec sont terminées? La réponse, c'est non. On en aura encore pour les prochains jours. Vous avez certainement vu l'avion militaire voler à basse altitude. Qu'est-ce qu'il faisait, Pascal? As-tu plus d'informations?
Aucune autre information que ça volait à basse altitude.
Ouais. Il y avait un pilote de chasse qui allait régulièrement dire bonjour à sa famille dans le secteur de la Pocatière. Je trouvais ça très drôle. Puis,
mais c'était-tu sécuritaire?
Ben oui, je veux dire, il passe dans le ciel puis il fait 3-4 flips, j'imagine. Mais il y avait une démonstration à faire dans le secteur de Saint-Isidore. Puis, il est allé dire salut en 2-3 secondes à sa famille dans le secteur de la Pocatière. Puis après ça, il est monté directement à Bagotville. Il a volé directement vers Bagotville.
Ça doit être le fun pour vrai.
Ça doit être fou, la vitesse où tu voyages là, dans ces avions-là qui sont extrêmement rapides. Tu sais, de savoir qu'en 5 à 10 minutes, tu es capable de passer de Saint-Isidore en Beauce
à Bagotville.
Je suis assis dans mon bureau à Bagotville avec un café.
Mais longtemps, il y a eu le festival aérien de Bagotville. Nous, on allait là, c'était un rendez-vous avec ma famille. C'était le fun, t'as des bouchons quand t'étais jeune.
On avait ça à Québec aussi.
On avait ça, oui, effectivement. Mais là, c'est de retour, en tout cas, du moins pour Bagotville en juin. 22-23 juin. J'ai su ça hier. Fait que c'est drôle que tu fasses référence
nouvelle.
À ça.
Il y a des passionnés de l'aviation. Moi, je suis pilote, mais je ne suis pas un grand passionné de l'aviation. Mais à chaque fois que je passe sur route de l'aéroport, juste sur le côté de la piste, là, je pense que c'est la 2-4, les gens se stationnent de façon à voir les avions arriver.
Oui.
Puis ils trippent, puis ils peuvent passer leur soirée là. Ça,
ben,
c'est
le fun
vrai
pour vrai quand t'en as qui te passent au-dessus de la tête. Mais ce qui est le fun aussi, c'est tout. Moi, j'adore les militaires.
La vie à tous.
Au festival de Bagotville, c'est le fun. Il y a beaucoup d'avions militaires, des gens qui t'expliquent comment ça fonctionne.
Même là, on est là, c'est les pompiers.
Moi, c'est mon père.
L'autre jour, il a fallu qu'elle aille à la centrale.
Mon père est pompier, alors c'est terminé pour les pompiers depuis ma naissance.
L'autre jour, il a fallu qu'elle aille à la centrale de police du parc Victoria. Ah. Elle s'était fait voler son sac à main.
Mais voyons.
Donc, elle devait faire une déposition comme quoi elle s'était fait voler son sac à main parce qu'il y avait des cartes là-dedans.
C'était dans sa voiture ou elle marchait sur le trottoir?
C'était dans sa voiture. Okay. Puis, elle est restée comme 2 heures à la centrale de police. Là, je me dis, mais t'attendais quoi? C'est pas désagréable, tu sais. Mais chez nous, elle attend 2 minutes.
Vous
faites
vraiment
elle que
bien
c'est
d'être
long.
Ensemble, vous autres.
Mais elle a passé 2 heures. Elle dit, ben, je disais bonjour aux policiers en uniforme.
Vous êtes pareil, toi, Pierre.
Hey, Tom.
Dans l'actualité, ce qu'on surveille, quelques nouvelles qui sont tombées dans les dernières minutes, notamment l'augmentation des activités criminelles ici à Québec qui a fait grimper le nombre d'heures de travail effectuées par les policiers municipaux. Puis la facture des heures supplémentaires, elle s'élève assez haute pour l'année 2023. On est à 10,2 millions de dollars, bien sûr, en lien avec le violent conflit entre les Hells Angels et un groupe de revendeurs de drogue indépendants qui ont contribué à la hausse de la violence dans la grande région de Québec. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les agents du SPVQ est passé de 165 000 en 2022 à 177 000 en 2023. C'est une augmentation d'environ 7,2. Marie-Claude Brousseau, qui est la directrice des communications du SPVQ, qui dit que l'explication est essentiellement liée aux multiples activités criminelles qui se sont déroulées. Pour vous dire, là, les sommes allouées en tant qu'heures supplémentaires au SPVQ, on est à 10,2 en 2023 millions, 11,2 millions en 2022 et on était à 6 millions en 2021. Donc, c'est ce qui est sorti dans les dernières minutes là, en lien avec ces heures supplémentaires-là. Cet argent qui a été remis aux différents policiers de la ville de Québec. Sinon, la patinoire couverte bleu-blanc-rouge, le premier coup de pelle a été fait ce matin. Cette nouvelle patinoire extérieure-là qui va qui devait coûter aux alentours de 6-7 millions de dollars, ça a été revu à la hausse. Ça va être à 10,8 millions de dollars, la construction qui est débutée ce matin, notamment les représentants de la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui étaient là, et cette fondation-là qui vont contribuer à 2,5 millions de dollars pour cette construction-là. Du côté de la ville, sa contribution va mener à 8,3 millions de dollars pour cette patinoire qui va être refaite. Donc, c'est ce qui a été annoncé ce matin par Jean-François Gosselin et le maire Bruno Marchand qui était sur place pour la première pelletée de cette patinoire qui va être prête là, dans les prochaines années.
All right, nos amis de la Marmotta sont en studio. Yeah. Vous l'avez entendu régulièrement sur nos ondes. Jean-Philippe Nadeau-Langevin qui est un des porte-parole de la Marmotta Trail. Salut, JP.
Yeah, salut la gang, merci de m'avoir encore une fois.
Pour les gens qui t'entendent pour la première fois puis qui entendent parler pour la première fois de Marmotta Trail, parle-moi un peu du site puis parle-moi des déboires que vous avez avec la ville depuis quelques semaines.
Bon, ben c'est un site de sentier de vélo de montagne. Premièrement, qui n'est pas gigantesque parce que le dossier est devenu gigantesque. La Marmotta Trail, ça reste 4 trails de vélo, 3 expertes, une débutante. À côté, il y a d'autres sentiers de vélo de 5 km. C'est pas Marmotta, mais par contre, on peut y accéder. 5 km débutant, c'est du flat. Ça fait 15 ans que ça existe. Les gars ont bâti ça à la main. Puis en ce moment, la ville, pour quelques raisons, veulent le détruire. Nous, on défend que c'est un patrimoine mondial, la Marmotta.
Mais est-ce que vous vous êtes senti trahi quand vous avez appris que Jean-François Gosselin, qui avait dit, ben nous, on a reçu une lettre de la part du ministère de l'Environnement qui disait qu'on devait reprendre ce site-là et de le mettre à son état naturel, puis pour finalement se rendre compte que le ministère de l'Environnement n'avait jamais envoyé de lettre à Jean-François Gosselin. Est-ce que vous êtes senti trahi en tant que citoyen?
Ben c'est sûr que ça a comme pris un virement dans la saga. En même temps, ça réglait une des deux questions de la ville, c'était les assurances, puis le ministère. Fait que là, ça en réglait une des deux. Maintenant, il reste juste
La
question des assurances.
Est-ce que vous êtes informé pour une OSBL? Est-ce que je vous avais mentionné la première fois où jasé?
On a été approché par Vélo Québec. Ça, c'est plus la partie en mic. La seule affaire, c'est qu'en une semaine, on n'a pas le temps de développer une OSBL. Puis en ce moment, on est encore à vouloir parler avec la ville, à bloquer la destruction.
Ouais. C'est toi-même qui as rentré ton propre numéro de cellulaire dans mon téléphone parce que j'étais en discussion avec Jean-François Gosselin. Il t'a-tu appelé puis ça a pris combien de temps avant qu'il t'appelle?
Il m'a appelé après l'entrevue.
Il t'a appelé après l'entrevue. Puis il t'a dit quoi exactement?
On a parlé, puis dans le fond...
T'as-tu senti une ouverture comme quoi il pourrait y avoir une possibilité que la Marmotta Trail ne ferme pas?
Venant de lui, oui.
OK.
Mais depuis notre conversation, il n'y a eu aucun développement, même que la ville bloquait la Marmotta. Dans leurs entrevues, ils ont dit qu'ils gardaient leurs points. Donc... Il n'y a rien qui a bougé à la ville. Eux, ils vont vers la destruction.
Vous autres, vous êtes retournés sur le site de la Marmotta?
Pas depuis qu'ils ont mis les pancartes interdiction au vélo. Encore une fois, comme j'avais fait une vidéo, nous, on veut travailler avec la ville.
T'essaies de le respecter.
Exactement.
Vous n'êtes pas en confrontation depuis le
début. Non, vraiment pas. Là.
Ça, là, moi, c'est une affaire que je déplore parce que si on veut des canaux de communication, si on veut développer des choses entre citoyens puis Ville de Québec, quand il y a des gens qui collaborent de manière pacifique, qui suivent les règlements qui sont mis en place, même si vous n'avez plus le droit d'aller dans ces terrains-là pour l'instant ou autre, je comprends pas pourquoi ça ouvre pas encore plus le dialogue. Là, c'est juste faites exactement ce qu'on vous dit, ce que les gars font, mais en plus, on ne vous parle pas. Je trouve que c'est très coercif comme façon de faire. Puis ça, c'est, quand je dis il y a le contenant puis le contenu dans cette histoire-là, dans le contenant, je trouve que c'est extrêmement déplorable pour l'administration.
Mais c'est clairement des endormis. Ces gens-là dorment au gaz, sont payés à tous les jours pour surveiller ce qui se passe sur leur territoire. Puis ça a pris un porte-parole, la Marmotta, qui était dans une entrevue média, qui était en contact avec un conseiller de la Ville de Québec qui était supposé d'être là, parce que j'avais invité Jean-François Gosselin aussi pendant l'entrevue que je faisais avec toi, qui disait « Yann, je peux pas me présenter. Toi, tu m'as donné ton numéro de cellulaire, c'est toi-même qui as pris mon téléphone. Tu as donné ton numéro de téléphone à Jean-François Gosselin, il t'a appelé, puis il n'y a pas de suivi par rapport à ça. Il t'a démontré une ouverture, mais concrètement, les dés sont déjà pipés. Ces gens-là auraient déjà dû prendre contact avec vous autres? » On s'entend, là? Ils sont payés pour le faire.
Ça a été fait quand ils ont annoncé que la Marmotta a été à la détruire.
Ouais.
Mais après ça, on était rendu à 10 000 signataires. Tu sais, à part Jeff Gosselin, c'est le seul qui a répondu à nos appels. Ouais.
Que vous avez appelé parce que Yannick vous a mis en communication.
Mais il aurait dû être proactif avec vous autres, JP. Il aurait dû être proactif, c'est d'aller vous voir sur le terrain. « Hey, comment vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis conseiller pour les sports, les loisirs à la Ville de Québec. Voici ce qu'on pourrait faire, voici les opportunités. Puis vous venez nous voir à la Ville. » Puis organiser quelque chose de cool parce que ce site-là, ne coûte absolument rien à la Ville de Québec et sert à des centaines de jeunes et des moins jeunes dont tu fais partie. Là. M'excuse de dire ça. Mais il sert à des centaines. Ça coûte à rien, à personne.
Exact.
Là, la Ville veut reprendre ce site-là, l'aménager à sa propre façon et payer des fonctionnaires pour surveiller ce secteur-là, alors que c'était déjà fait par des passionnés de motocross.
Puis de vélo. Pas motocross,
ouais,
pour pas
vélo,
que... Parce que là, on va se faire barrer.
Fait que c'était des vélos.
Ben là, ils veulent l'aménager en sentier pédestre.
Oui.
Mais comme je disais au début, c'est vraiment pas gros, la Marmota. Là. Dans le fond, se rendre du parking que la ville a aménagé à la Marmota, c'est plus long que de faire le tour de la Marmota à pied.
T'es en train de dire qu'on ne deviendra pas pèlerin, là, si jamais on
non, non,
fait
ça.
On va virer en rond, là, ça, c'est sûr.
Comment t'appelles ça quand ils vont en Europe, là, et ils font
Dieu,
marche?
Oui,
Compostelle?
Oui, Compostelle.
Chemin de Compostelle. C'est pas le chemin de Compostelle, la Marmota, là.
Ben, ça va peut-être devenir un sanctuaire pour les adeptes de vélo.
Ouais. Fait que là, est-ce que la police est allée vous voir?
Non. Dans le fond, avant l'entrevue, c'est ça que je te disais. Vendredi, j'ai communiqué avec le service de la police de la Ville de Québec pour la manifestation qu'on va parler tantôt, qui est ce soir. Puis, super bonne réponse, dans le fond. Ils sont vraiment pas stressés. Ils m'ont encadré là-dedans. Fait que je voulais juste les remercier. Là. C'était vraiment apprécié de...
C'est important d'avoir
quelqu'un.
Ça.
Ouais.
Vous êtes tellement contrevenant à rien, là. Il appelle la police pour déclarer sa manif, dire comment est-ce qu'on peut faire ça d'une belle manière.
Ben oui, c'est des bons citoyens.
Mais tu vois, si eux, puis là, je sors de l'histoire de la Marmota, là, si eux agissent comme ça auprès de la ville, puis ça fonctionne même pas pour se faire écouter, là, pour avoir une conversation qui n'est pas juste « je frappe un mur, puis non, ça ferme, puis je l'apprends par les médias ou la conférence de presse », qu'est-ce qui avance avec des citoyens dans la ville de Québec en ce moment? Quand tu as du monde comme ça,
c'est quand les politiciens commencent à chier dans leurs culottes. On l'a vu avec les Carrés Rouges, avec Gabriel Nadeau-Dubois qui condamnait pas les gestes de violence, qui condamnait pas le grabuge. Puis t'avais les petits bums qui détruisaient à peu près tout sur Sainte-Catherine lors des manifestations.
Mais mettons qu'on revient à Québec,
les
c'est
politiciens
gênant.
Avaient peur, donc ils ont plié, puis ils ont donné aux étudiants ce qu'ils voulaient pour que le conflit se règle. Là, on a des bons citoyens qui y vont de la bonne façon, qui sont en mode ouverture, qui sont en mode échange. Et la ville... sauf peut-être Jean-François Gosselin à certains égards, même s'il a menti sur un point, là, et la ville semble faire la sourde oreille. C'est parce qu'ils n'ont pas peur. C'est tout simplement ça.
C'est pas drôle quand on en vient à ça.
C'est d'une tristesse.
C'est vraiment pathétique. Okay. Là. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, je trouve ça pathétique. Là. Combien de projets passent en dessous de la couverture comme ça puis qui se font juste dire c'est terminé aussi?
Ouais. Là, les gars, il y a une manifestation ce soir, c'est ça?
Oui, ce soir, là, comme je l'ai dit dans mon vidéo, si vous voulez aller voir sur la page Instagram, il y a beaucoup d'informations. On a deux équipes. Première équipe, c'est l'équipe conseil de ville. Mike va être là avec toute la gang de la Marmota pour aller déposer la pétition qui est presque rendue à 15 000 noms. Donc, s'il y a des auditeurs qui ne l'ont pas signé encore,
allez-y.
Go,
ouais.
Go, go.
Il nous manque, je pense, 500 noms. Là, fait que on va se rendre, c'est sûr. S'il y a des citoyens de la Ville de Québec aussi qui veulent aller au conseil de ville, poser des questions, même s'ils ne nous ont jamais parlé ou... je vous invite aussi. C'est à soir que ça se passe.
C'est un appui.
Là, ils n'ont pas le choix de nous écouter. C'est le conseil de ville.
OK. Puis la manifestation se fait où?
Ça, c'est la première équipe. Okay. Deuxième équipe, ça va être avec moi. On fait une manifestation pour supporter l'équipe qui va être en dedans. Fait qu'on part de l'anneau des plaines d'Abraham, la terrasse Gray. C'est genre là, tu sais, c'est un rond-point à côté. De l'anneau
à côté de l'anneau, ouais. Vers le fleuve, dans le fond.
Exactement. Okay. C'est la terrasse Grey qui appelle.
C'est un super bel endroit, ça.
Ouais, fait qu'on on va se rassembler là de 6h à 7h ce soir, que tout le monde arrive. Après ça, on fait un convoi sur les plaines d'Abraham. Puis c'est important aussi, moi, je voulais pas créer de bouchons de circulation. On passe sur les plaines. Après ça, on coupe sur Grande Allée à côté du Parlement. On descend Château-Frontenac, puis on va remonter à l'Hôtel de Ville. Environ vers 8 heures, on va être à l'Hôtel de Ville. On va se parquer en avant. On bloque la partie du rond-point devant l'Hôtel de Ville. Fait que les autos...
Ça, c'est tout entendu avec les policiers?
Ouais.
OK, parfait.
Il y a quelqu'un qui nous demande, si je venais avec des enfants, est-ce que je pourrais, est-ce que le circuit est difficile?
Non, bien, c'est sûr, c'est une bonne marche. Là. Je le disais dans mon vidéo, vélo, poussette, chaise roulante, à pied. on veut le plus de monde.
Mais il n'y a pas vraiment de côte. Sur le circuit qui me dit, il n'y a pas vraiment de côte.
Puis même si on va être en vélo, là, on n'ira pas vite. Là. C'est vraiment juste symbolique que le monde vienne avec leur vélo. Là.
Parfait. Est-ce que vous avez réussi à avoir une rencontre avec le maire?
Non.
Non? Bon. C'était pas du transport en commun? Il ne traite pas sur le vélo, anyway?
Je pense qu'il aime ça, le vélo, mais peut-être pas le vélo de montagne, ou je sais pas. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui se trament. Mais...
OK. On vous suit comment sur vos pages Instagram? C'est La Marmotta, tout simplement?
Ouais, Marmotta Trail sur Instagram. Pour la pétition, vous pouvez marquer sur Google pétition Marmotta, Marmotta Trail. Ça va sortir. Puis sur Facebook, il y a aussi un événement, c'est Manifestation pour sauver la Marmotta.
Puis il va y avoir un DJ, si je comprends bien, devant l'Assemblée nationale à la
fin.
Les Wild Boys.
Pour appuyer le reste de la gang, c'est possible.
Hey, Jean-Philippe Nadeau-Langevin, t'es tout un porte-parole en passant. Là. Tu travailles extrêmement fort. Je salue les gars qui sont avec toi dans l'histoire de la Marmotta depuis 2009, que tu m'avais dit de mémoire, c'est ça? Depuis 2009. Vous travaillez fort, puis en plus, vous passez par les bons endroits pour vous faire entendre.
C'est dans les règles.
Québec. Vous n'êtes pas des petits crises de bombes qui veulent faire chier. Vous voulez juste faire valoir vos droits, puis vous voulez sauver un emplacement qui sert à des centaines et des centaines de jeunes. Pendant qu'ils sont là, ils sont pas en train de prendre de la drogue ailleurs. Puis là, ben, la ville veut mettre le coup de hache là-dedans. Je trouve ça très ordinaire. Puis j'espère qu'ils vont démontrer une certaine ouverture pour que ça puisse rester ouvert, la fameuse Marmotta. Fait que salutations à toi et toute ta gang. Vous faites une maudite belle job. Puis on est bien content de vous supporter là-dedans.
Ben, merci beaucoup.
Fait plaisir, mon ami. Nous autres, on s'en va en musique avec les Foo Fighters. Time Like This sur les ondes de boulevard. Give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Marceau, le midi.
Vous savez que vous avez un problème de comportement.
Oui, mais un tout petit problème.
Marceau, le midi. Avec Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
Hey, vous le savez, depuis que je fais de la radio, donc depuis 2006, je suis pro-environnement et je lis tout ce qui se fait sur l'environnement. Et aujourd'hui, dans le Journal de Québécois, on parle de la journée mondiale, Pascal, la journée mondiale du jardinage.
Ah!
Mais pas n'importe quel jardinage.
OK.
La journée mondiale du jardinage nu. Qui est célébré chaque premier samedi du mois de mai.
Non, c'est pas célébré, ça.
Qui a été l'occasion aux nudistes du monde entier de laisser tomber jupe et pantalon pour bêcher leur jardin. Écoute, ça existe depuis 2005 aux États-Unis.
La journée 2005. Mondiale du jardinage nu.
Yes! Et ça, ils ont même des magazines, les tout nus. Là. Ils ont même des magazines.
Okay. Comment jardiner nu?
Et il existe en passant.
C'est différent, c'est ça.
Parce que je t'invite à tapoter sur ton Google.
Ah oui,
Nude...
Non, je pense pas. Nude.
Nude et Natural Magazine. Donc, Nude and Natural Magazine.
Ils n'ont pas fait faillite, eux autres. Ils ne devraient pas avoir tant de lecteurs que ça. Là.
Je ne sais pas. Mais la dernière affaire auquel je penserais quand je fais du jardinage, c'est d'avoir le péteux dans la terre.
On est pareil là-dessus.
Quand ça traîne à terre dans un royaume de bébites, c'est non.
Ah, il y a ça. Mais tu sais, quand vous voyez des gens dans les films qui font l'amour sur la plage, je vous le dis, faites pas ça. Fiez-vous sur moi. Du sable dans le péteux, du sable un peu partout, c'est la dernière des affaires que vous voulez.
Dans les clubs naturistes, on les voit toujours en voiturette de golf. Tu sais que le soleil, c'est du cuir, là.
Ah, ils mettent des petites serviettes.
Ben oui, pour être sûr, mais tu sais, hein? Traîne là, toi, ta serviette.
Ils mettent des petites serviettes.
Moi, je n'échangerais pas la mienne avec celle de quelqu'un d'autre.
Mais c'est ça, tu sais, pour
la
avoir...
La journée mondiale du jardinage nu.
Je sais que ça va te surprendre, mais pour avoir déjà reçu en entrevue des gens qui vivent toujours nus pour la plupart du temps, là, qui vont dans des campings nudistes et tout ça, ça a l'air que c'est extrêmement respectueux. Là. C'est pas comme dans nos pensées le soir avant de se coucher. Là. C'est très, très, très respectueux. C'est juste que je comprends mal. Je comprends mal cette société-là où tu dois vivre tout nu sur un camping. Tu sais, mon premier réflexe, si je vois un enfant, ça va être de me cacher.
Ah oui, c'est sûr. Moi aussi, je serais pas capable avec des enfants.
Mais il y en a qui font ça en famille. Fait que j'imagine que c'est moi qui n'ai pas encore rendu là, là. Mais moi, c'est non. C'est non.
Ça fonctionne pas.
Pour vrai, c'est impossible. C'est impossible pour moi. Entre adultes consentants, je trouverais ça raide. J'ai pas envie de voir tout le monde tout nu. J'ai pas envie de voir des gens que j'ai pas choisi de voir nu.
Mais c'est rare que c'est des Brad Pitt, là.
Ça, Yannick, ça s'appelle jugement. Là.
Ben oui, ben c'est ça.
Brad Pitt, c'est vrai qu'il est unique. Ouais, il est unique.
Ceux qui ne sont pas des Brad Pitt, puis je fais partie des gens qui ne sont pas des Brad Pitt, regarde, on faut s'accepter.
Mais ils sont en gang.
On se voit dans le miroir.
Mais quand tu parles de respect, par exemple, là, c'était une des affaires, des constats que j'avais fait après avoir été dans un club échangiste. Je répète, pour le travail, en observation et non en action, que les gens étaient extrêmement respectueux. Plus que dans un bar normal.
Ah, ça se peut. Ça se peut. Moi, je me souviens d'une entrevue à Denis Lévesque où il y avait un hurluberlu qui s'était pointé. Moi, j'adorais les Denis Lévesque à LCN. Des fois, c'était très sérieux. T'apprenais des affaires, puis des fois, c'était complètement loufoque. Et le gars se plaignait, puis réclamait le droit de pouvoir être nu sur son propre terrain, mais il habite en banlieue. Puis là, Denis Lévesque, il posait plusieurs questions en savant « Oui, mais est-ce que vous faites attention, tu sais, les voisins, les enfants et tout ça? »« Oui, 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 je fais attention. Je suis toujours sur mon terrain en arrière. Il y a de la végétation en masse. Il y a des clôtures, tout ça. » Et cette entrevue-là avait été mise sur Internet. Puis il y a des chercheurs, qu'on appelle des auditeurs et des téléspectateurs passionnés, qui ont réussi à retrouver la banlieue où le gars habitait. Ils ont réussi à retrouver la rue où le gars habitait avec Google Maps. Et pendant que le camion Google Maps arrivait là, pour photographier toute la rue, le monsieur est en train de laver son char, la zigoune à l'air, toi.
C'est donc bien bon.
Aïe, pas. Non, ça s'invente pas. Ça, c'est s'obliger. On s'oblige aux autres. C'est quelque chose que je déplore. Le voisin fait ça chez mes grands-parents, c'en est un qui s'oblige. Puis vous savez, ben, t'sais, ma tante est trisomique, puis elle salue tout le monde, puis elle aime tout le monde, puis elle ne se rend pas compte de ce genre d'événement-là, de gens qui s'obligent aux autres. Mais nous, on le sait, tu comprends. Fait que quand le voisin qui avait mis sa balançoire dans un axe où lorsqu'il est assis, puis qu'il se balance, okay, on le voit pas qu'il est nu face au vent. Ça dérange plus ou moins. Mais quand il décide que lui, il salue le voisinage au complet, qui passe sa rue, oui, puis que ça donne que c'est ma pauvre tante Nadine qui est sympathique comme tout, puis qui fait un beau gros bonjour, puis qui a le grand Gontran qui se lève. Ça nous frustrait tellement, Yannick, là. Assis-toi. Tu vas t'asseoir. Écoute,
c'est sûr que si tu vas au zoo de Granby, tu vois un éléphant qui s'attrompe, tu t'attendais à ça.
Oui, mais quand il est rendu sur le patio en avant...
Mais quand Gontran, il te montre sa trompe...
Puis il dit... Puisqu'on est sympathique, qu'on me salue, mais je vais saluer au grand vent moi aussi.
Mais non, tu vois, c'est pas respectueux.
Là. Au cachot.
Mais cela dit, sache que cette journée-là existe, Pascal, et ça s'appelle la journée du jardinage pour reconnecter avec la nature. Donc,
arrête. On a ajouté, c'est pour reconnecter avec la nature. Parce qu'en vêtements, ça ne fonctionnait pas. Il faut quelque chose qui traîne dans l'herbage.
Je ne sais pas.
OK, c'est beaucoup.
Donc, la revue Nude and Natural Magazine.
Mais moi, je suis vraiment surprise à quel point c'est facile de créer des journées nationales. T'sais, hier, tu avais celle du Steamy qui a été créé par un humoriste. Puis ça a fait le tour, puis il y a des entreprises qui ont sauté là-dessus. Et même que La Fleur a fait un sondage complet auprès de Québécois pour demander les préférences entre les hot dogs des gens. Fait que sur les condiments, puis sur... Puis moi, le débat, je trouve pas qu'il est efficace. Là. C'est sûr que le hot dog rôti est meilleur que le steamé. Il y a des gens qui se sont abstenus. Ils trouvaient que le débat était trop chaud. Mais pour 43 % des Québécois, c'est des hot dogs grillés qui sont préférés face au steamé à 26 %. Puis ceux qui se sont abstenus, ils sont 31 %. Mais on dit que ceux qui n'ont pas de goût sont majoritairement à Montréal là, pour les steamés.
Ça me surprend. Mais Pascal, il y a des gens qui te demandent dans un camping pour nudistes.
Pourquoi on me demande
est-ce qu'il y a des moustiques?
Oui, il y en a en masse.
C'est clair qu'il y a des moustiques?
Ben oui.
Oui. Mais tu sais ce qu'on fait quand on les chasse?
Qu'est-ce qu'on fait quand on les chasse? Je comprends pas. Je comprends pas où tu veux aller avec ça. Mais une chose est sûre, c'est que si tu es dans un camping pour nudistes toi, tu es nu, tu peux avoir plein de leçons de vie. Ben oui, bien sûr. La première, c'est que la violence ne mène règle pas toujours tout. Si tu as un moustique qui se pose sur ton testicule, tu peux pas être violent avec le testicule.
Non.
Donc, ça... La grande philosophie dit « La violence ne peut pas tout régler. » Pascal!
Oui? Tu voulais qu'on change de sujet? Ou tu voulais que je prenne mon air? Quelqu'un qui dit « Pascal, tu viens de dire... »
Respire, Pascal.
Le jardinage nu, c'est raide.
C'est raide.
C'est raide.
Oui, c'est ça.
C'est pas facile.
Oui,
c'est raide.
Mais les tiques, maintenant, sont dangereuses. En plus, imagine, t'as une tique placée au moment.
Mais les tiques sont pas toutes dangereuses, mais effectivement, il y en a qui peuvent te donner, justement, l'infection maladie de Lyme. J'ai une amie, moi, Audrey Larousse, pour les gens qui la connaissent, qui a travaillé longtemps dans la restauration. Elle avait pogné ça. Je pense que c'était en 2006, 2007, de mémoire, dans un voyage. Puis ça a pris comme un an avant d'être capable de s'en remettre. Là.
Ah, puis pour des gens, ça va être à vie. Pour à des vie? Gens, ça va être mortel. Et maintenant, c'est rendu chez les animaux. Et ça, ça doit être traité. Ça coûte très cher et autres. Hey, parlant d'un moustique à un autre, juste mentionner, parce que c'est une journée importante aux États-Unis aujourd'hui, là, c'est toujours le procès de Donald Trump à New York. Et il y avait un témoignage qui était fort attendu. C'est celui de, de l'actrice porno, vous connaissez, là, Stormy Daniels, un des noms les plus populaires maintenant. Et elle a témoigné dans cette affaire de fraude électorale parce qu'on aurait donné 130 000 $ pour acheter le silence de Stormy Daniels.
Elle, as-tu fait la passe? Elle a accepté le 130 000, puis après ça, elle est sortie des médias en disant « J'ai couché avec le président des États-Unis, Donald
Trump. »
Probablement
qu'elle a eu de l'argent des médias pour ses confessions.
Exact. Donc, pour des entrevues, elle se faisait payer pour les entrevues pour dire comment ça se passait avec Donald Trump. Et par la suite, ses vidéos sur Internet ont complètement explosé.
C'est une femme d'affaires, là. Pour vrai, là, c'est une femme d'affaires. J'ai rien d'autre à dire que ça, pour l'instant. Mais elle, dans son témoignage, parce que ça vient de sortir dans les dernières
minutes...
Elle
a eu la main heureuse.
Elle a raconté que lors de la première rencontre seule à seule avec le président, c'était dans une chambre d'hôtel, puis il l'attendait en sous-vêtements sur un lit. Elle dit aussi, elle, comme raconter tout son passé, du pourquoi elle était travailleuse du sexe, pourquoi est-ce qu'elle prenait des clients comme Donald Trump, mais ça commence à sortir tranquillement. Puis elle a dit que elle a quand même des blackouts sur certains moments là, dans tout ça, fait que il faut quand même suivre le témoignage de fond. Elle va revenir demain en cours. Mais ça, ça change des fois la tournure d'un procès là, quand la personne impliquée majoritairement vient témoigner. Fait que c'est pour ça que c'est important aujourd'hui. Du côté de New York, dans le procès de Donald Trump.
Sinon, l'Ukraine, t'avais quelque chose à nous raconter là-dessus?
Oui, l'Ukraine, j'avais quelque chose à te raconter là-dessus parce qu'on a essayé de tuer Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, vous le savez, qui est en guerre contre la Russie depuis qu'elle a tenté de l'envahir. Et là, on a annoncé qu'il y a deux agents qui étaient engagés par Moscou, sur ordre de Moscou, qui ont tenté d'assassiner Volodymyr Zelensky, mais on a arrêté ces deux agents-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Pendant ce temps-là, la Russie, elle, commence à se moderniser au niveau de l'armement. On a une nouvelle arme qui s'appelle Dragon. C'est une arme d'horreur du Kremlin et c'est peu de médias qui en parlent. Vous allez voir dans Le Monde, il faut faire une recherche à l'international. Mais on a envoyé des indications claires aux industriels, là, tous ceux qui sont sur le territoire de la Russie, moderniser les systèmes d'armes existants, renforcer les troupes déployées sur le territoire ukrainien. On doit faire tout ce qu'il faut pour anéantir ces gens-là. Et l'arme Dragon, ben, y a plein de gens qui essaient d'avoir de l'information à propos de tout ça, mais ça pourrait changer le cours de la guerre. C'est ça qui est un peu
inquiétant. Qu'est-ce que ça fait, cette arme-là?
Tout ce qu'on dit, c'est une nouvelle arme qui s'appelle l'arme d'horreur du Kremlin. Et c'est quelque chose qui a été modernisé avec les connaissances de plusieurs systèmes d'armes existants, puis des industriels qui ne se convoquent qu'à moderniser l'arme Dragon. Ses caractéristiques, en fait, c'est que ça fonctionne avec des munitions que l'on connaît, mais ça a des têtes explosives, donc ça se rend plus loin. C'est un peu comme des lance-roquettes, mais on est à chercher de l'information là-dessus. Mais c'est un peu comme... Ben là, je veux pas comparer... C'est parce que... c'est ça. Je veux vraiment pas comparer à l'arme nucléaire, mais ce serait un tournant important dans la guerre, là. Okay. Ce serait une nouvelle arme qui pourrait être très dangereuse.
Dragon, hein, tu nous as dit.
Dragon.
Okay. Bon. Dragon. Et en terminant, juste avant la pause, on te demande, Pascal, si Stormy Daniels était payé en liquide.
Je pense que c'est beaucoup, 130 000 $ liquide.
Marceau. La gagne en onde par téléphone 780-1021. Texto 971-1021. Voici Marceau le midi.
13h48, dans quelques secondes, toute l'équipe de Gravel dans le retour prendront le contrôle des ondes de 14h jusqu'à 18h. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir avec l'excellente Michèle Blanc, qui sera des nôtres. On va parler de technologie, on va parler d'intelligence artificielle.
Oh yeah.
C'est une femme exceptionnelle avec qui j'adore parler une fois de temps en temps. Sinon, ce soir, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Il y a du hockey, mais je pense que Denis va être très à l'aise dans les prochaines heures de vous parler de la victoire des Bruins de Boston sur la Floride. Ouais. 5-1. Honnêtement, je ne m'attendais pas à
moi
ça.
Non plus.
Mais on avait pris pour les Bruins, toi et moi.
Moi, j'avais pris les Bruins, mais je m'attendais à une game de genre 2-1 ou 3-1. Serré, hein? Une game serrée. Puis finalement, ben, Boston a pris l'avance et une belle victoire de 5-1. Ce soir, 19h, les Hurricanes contre les Rangers. La série, c'est 1-0 pour les Rangers de New York qui devraient gagner la Coupe Stanley si la logique
moi aussi, je suis avec toi.
Et sinon, un peu plus tard, peut-être trop tard pour certains, c'est l'Avalanche du Colorado qui affronteront les Stars. C'est le match numéro 1 qui va gagner, Pascal. Moi, je dis l'Avalanche.
Avalanche.
Stars en 7.
Voyons, t'es tout le temps le contraire de nous autres.
Ça, c'est ainsi, je suis
contre. Mais c'est le fun, c'est un beau challenge sportif.
Quand c'est vu, puis toi, de t'arriver avec moi, tu prenais tout le temps sa part, et là, maintenant, t'es rendu là, dans mon équipe.
Je suis rendu unique, je suis rendu seul.
Monsieur veut gagner plus cher.
Hey, puis on surveille aussi à 18h30 la loterie de la Ligue nationale de hockey. Qui va avoir ce fameux premier choix? Puis ensemble, on va le faire. Là. Il y a un site qui s'appelle Tankathon. Tu peux faire une simulation de loterie. On la fait à l'instant, OK? Avec les pourcentages de chaque équipe. Et la loterie, c'est les Coyotes de l'Arizona qui auraient le premier choix. On monterait de 6 à premier et le Canadien descendrait d'une place pour, à la place d'être 5, soit 6. Mais ça, c'est une loterie qui a été faite par le site web.
Faut que les Habs remportent cette loterie-là. C'est McLean Celebrini qui
à Montréal,
avec
go!
Nous autres d'ici 2 ans. OK, à 13h49, on s'en va avec Jean Leloup, Johnny Gauche. Je vous souhaite de passer une agréable journée sur les ondes de boulevard. Et on se rejoint à 18h. Bye bye.
Salut.
Merci, Pascal.
Mes hommages.
Bye bye.